Émission On en jase, c'est maintenant 2-2 entre le Canada et la Tchéquie. Nathan MacKinnon vient de marquer en avantage numérique. Il reste exactement 6 minutes 27 secondes à faire en deuxième période. La Tchéquie qui donne du fil à retordre aux Canadiens. On souhaite une victoire de notre Team Canada. On veut la médaille d'or en hockey masculin. C'est la seule médaille d'or qu'on veut. Non, c'est pas vrai. On est très fiers des autres athlètes. Mais ouf! Ça fait longtemps que j'ai été nerveux de même pour un match d'hockey.
Ouais, ben ça fait du bien là, d'égaliser la marque parce que ça faisait quand même un bon bout que c'était 2-1 cette partie-là.
Ouais.
Puis même si le Canada va s'entendre, on est censé être pas mal meilleur que la Tchéquie. Depuis le début du match, j'ai envie de vous dire que la Tchéquie joue un très bon match.
Ah, oui.
Donc c'est un match beaucoup plus serré qu'attendu, mais là 2-2. Canada a repris le rythme depuis le début de la deuxième période. Fait que ça sent bon pour le Canada.
Il y a toujours eu des surprises dans l'histoire du sport. On va souhaiter ne pas être l'équipe surprise. Antonine Iaccarini, j'ai une question pour toi.
Oui.
Est-ce que je suis un mauvais père si j'ai motivé l'absence de mon fils aujourd'hui au secondaire pour qu'il écoute le match Canada-Tchéquie?
Écoute, quand je t'ai entendu dire ça tantôt, je me suis dit, parce que j'ai déjà eu un débat avec, avec des amis sur est-ce que c'est correct de faire manquer de l'école aux enfants pour des voyages.
Mm-hmm.
Parce que là, il y a de plus en plus de monde. Tu sais, tu dis, je ne vais pas partir à la semaine de relâche.
Mais
ben
non, ça coûte trop cher.
Ça coûte trop cher.
Exactement.
Fait que là, on fait manquer de l'école à nos enfants. Puis là, ça fait débat, cette affaire-là.
Ouais.
Pour des matchs de hockey, j'y avais pas encore pensé. Honnêtement, il faut faire preuve d'un petit peu de flexibilité. Je te dirais que si, par exemple, ton enfant a des gros problèmes à l'école puis qu'il coule tous ses cours, là, je te jugerais un peu.
C'est une récompense, en fait, parce que lors de la dernière session d'examen, il y a eu des résultats au-dessus de ce qu'il avait à l'heure actuelle.
Oui, puis on va s'entendre, comme tu l'as dit, je pense que ça dépend beaucoup de si l'enfant réussit ou non, ou si l'enfant le mérite ou non. Là. Mais une petite gâterie de temps en temps, dire, « Hey, tu le mérites, tu as mis les efforts à la bonne place. » Moi, mes parents me le permettaient des fois. Là.
Ouais.
Mettons une après-midi que c'était plus tranquille, hors éduc, d'aller à la patinoire extérieure avec mes amis. Là.
Moi, je prenais ma permission moi-même. Ma mère, après, elle recevait un message.
Ouais, ben c'est ça.
Puis elle n'avait pas le choix à ce moment-là.
Ben, puis je faisais à croire que c'est parce que j'avais mal à la tête, puis je suis allée chez l'infirmière, mais elle savait pas que quand tu vas chez l'infirmière, t'as pas besoin de billets, puis que l'infirmière te signait ton billet, fait qu'elle me signait mes billets.
Fait que tu l'arnaquais.
418-971-1021, est-ce que je suis un bon parent, puis avez-vous déjà fait ça? Allez-y par texto. Jusqu'à présent, les gens disent que je suis un bon parent. Mais tu dis, tu l'assumais, toi, quand t'étais jeune. Moi aussi, j'étais de même. Premier match de la saison des Expos, en après-midi, je vais l'assumer. Puis
OK,
là,
t'étais dans ma gamme.
Puis là, j'arrivais chez nous, puis là, mon père disait, t'as raté de l'école. Ouais.
Bon, moi, c'était pour écouter Musique Plus, mais c'est correct.
C'est ça. Mais, et là, je me suis rendu compte, tu sais, quand on se rend compte que la pomme tombe pas loin du pommier, là. Hier, je m'en vais chercher mon Edou après sa réunion de football. Il rentre dans l'auto, puis il me dit, d'un air assumé, « Ouais, père, demain, surprends-toi pas, je rate la deuxième période, j'écoute Canada-Tchéquie. »
OK, mais te l'as pas demandé.
Non, 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 non.
Te l'as annoncé.
Assumé, il me l'a annoncé. Et puis là, c'était... Mais j'ai trouvé ça cool parce que moi, j'avais pas le guts de le dire à mes parents avant. Fait que j'ai dit, crée une belle relation de confiance. Il me le dit. Et là, je lui ai juste dit, « Tu sais que pour rater de l'école, il faut que ton père ou ta mère motive l'absence. Sinon, tu vas avoir une conséquence. » Mais il m'a regardé dit,
Tu vas me motiver, hein?
Tu feras pas ça. Mais tu sais, le petit 2-3 secondes de nervosité que j'ai vu dans son regard.
La confiance chambranlée pendant un instant, mais moi, je salue ça.
J'ai dit, écoute, t'as vraiment bien fait ça à ta séance d'examen dernièrement. Je vais te permettre de rater ta période
pour
écouter le Canada.
À l'âge qu'ils sont rendus, là. Ouais. Parce que, tu sais, quand les enfants sont petits, parce que c'est sûr, on a tous des amis qui utilisent des méthodes de parentalité où ils disent jamais non, là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, puis que ça finit plus, puis qu'il y a de l'obstination à l'infini, puis que... Mais rendu à l'adolescence, moi, je valorise qu'ils soient capables d'argumenter.
Ben, exactement.
Donc, je veux me faire challenger poliment. Puis après ça, je veux que quand j'ai tranché, tu m'écoutes. Mais je laisse à mes enfants la chance de faire leur pitch devant.
Argumenter, c'est poliment. Je pensais, je me fiais aux réseaux sociaux. Je pensais que c'était des insultes puis des commentaires misogynes. Non, c'est pas ça, argumenter.
Simplement, ces gens-là n'ont pas été élevés par moi. Mais honnêtement, je trouve qu'au Québec, on n'est pas super bon en débat. Je trouve que soit qu'on évite le débat ou ça devient full personnel, comme Mathias vient de décrire, puis méchant, puis inutilement violent.
Ouais.
Donc, pourquoi pas faire une place au débat dans nos soupers de famille? Moi, puis pour vrai, là, je prêche pour ma paroisse parce que je viens d'une famille d'Européens. Chez nous, là, il y avait des débats sur toutes sortes d'enjeux. On avait 8 ans et demi, puis mon grand-père nous demandait ce qu'on pensait de ce qui se passe en Palestine.
Je viens d'une famille de Québécois, moi, puis on a toujours écouté les nouvelles en soupant. Même si tout le monde disait qu'il ne faut pas qu'il y ait de TV dans la cuisine, mes parents n'ont toujours mis une. Et mes parents nous posaient des questions sur qu'est-ce que t'en penses de ça, qu'est-ce que t'en penses de ça. Donc, moi aussi, tu sais, hier, j'étais content de voir que mon... Ça va être niaiseux ce que je vais dire, mais non, j'étais content de voir que mon petit gars de 16 ans, tu sais, il s'assumait. Hey, pas moi, là, j'ai le goût de faire ça, puis voici les raisons pourquoi j'ai le goût de le faire. J'ai été content de voir que shaker des genoux un peu devant l'autorité parentale.
Ben, c'est ça, il t'écoute quand même.
Exactement. Ouais. Puis on en est convenu justement à ça. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Si le Canada gagne qu'il y a une semi-finale vendredi, ça risque d'être à 15h10, tu vas rater ta 4e période, tu vas l'écouter avec ton père.
Oh! C'est cute!
Yes, fait go Canada go, c'est toujours 2-2, mais là, la Tchéquie qui attaquait. On va faire quelques manchettes avec Mathias et par la suite, on passe au caucus. Avant cela, bien, je vous mentionne les façons de nous écouter. BLVD.fm, c'est la web radio, les meilleurs moments de l'émission. BLVD 102.1, l'application sur App Store, Google Play Store. Écouteur intelligent, vous dites écoutez BLVD. Twitch.tv/BLVD/FM. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que le caucus qui suit dans quelques instants s'y retrouve maintenant à chaque jour. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
La police de Québec a arrêté 3 individus qui seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants ce matin, en plus de l'arrestation des 3 hommes, respectivement âgés de 35 ans et de 58 ans. Une perquisition de 25 000 $ a eu lieu. On parle de cigarettes de contrebande, de cocaïne ou encore de méthamphétamine. On reproche donc aux hommes d'avoir possédé des stupéfiants dans le but d'en faire la revente. Le maire de Saint-Antoine-de-Tille, Christian Larocque, qui a annoncé sa démission. La raison de ça, c'est que à l'approche du conseil municipal de hier, il y a eu des attaques personnelles envers différents élus. La population du côté de Saint-Antoine-de-Tille, ça brasse envers des élus, puis ça date de 2021. C'est le troisième maire qui quitte en plein mandat depuis novembre 2021. Une des raisons majeures de la grogne, c'est l'augmentation faramineuse de taxes. On parle d'une hausse de taxes moyenne de 17,1% pour cette année. Du côté des élus, on dit par contre qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de présenter notre vision qui n'est pas improvisée ni imposée, mais qui est plutôt nécessaire. L'ex-député conservateur Matt Généroux se joint au rang du Parti libéral du Canada. C'est l'annonce qui a été faite. La nouvelle recrue occupera d'ailleurs le poste de conseiller spécial sur les partenariats économiques et de sécurité. On se souvient, M. Généroux avait démissionné le 6 novembre dernier. Il avait annoncé qu'il quitterait tout simplement son siège et bien finalement, il se joint au Parti libéral. Ce qui fait en sorte que présentement, le Parti libéral a 169 députés. Puis je vous rappelle qu'il y a 3 partiels qui s'en viennent prochainement, autant en Ontario et au Québec. 3 partiels de sièges qui avaient été initialement gagnés par les libéraux. Donc, la majorité est prenable pour le Parti libéral du Canada. Je termine avec Québec solidaire qui fait jaser dans l'actualité parce qu'on a appris que le député du NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boudris, souhaiterait se lancer avec les solidaires lors de la prochaine élection. Par contre, présentement, QS a une règle qui dit que dans les comtés qui sont actuellement gagnés, c'est seulement des femmes et des personnes non-binaires qui peuvent se présenter. Ce qui voudrait dire que M. Boudris pourrait pas se présenter. Ruben Gazal a pris la parole ce matin en disant qu'il pourrait y avoir une exception, que le Conseil national du parti votera justement à huis clos pour savoir si, oui ou non, on va accepter l'exception pour la circonscription de Gouin.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niacarini vous les sert. Analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Niacarini, tu vas faire face à ton plus grand défi en carrière.
Oui.
Il reste 1 minute 12 en deuxième période. Avantage numérique Canada, c'est 2-2. Et là, il faut que moi et Mathias, on soit concentrés à t'écouter.
Bien, c'est ça. Si on était à une autre époque, on pourrait juste mettre une toune puis écouter le match.
Exactement.
Mais là,
on est rendu 100% parlé à Boulevard 102.
Mais je tiens à dire, c'est important de ma part que je me concentre aussi sur la partie pour
oui,
pouvoir
parce que là,
faire vivre
but,
les émotions aux auditeurs.
Si y a un but, c'est toi qui crie. Moi, je me concentre sur Anto. Pour être sûr de voir le début de l'avantage numérique, par exemple, j'ai un extrait d'Antoine Robitaille.
Il est-tu bien, bien long?
51 secondes. Ça va être à peu près la fin de la période. Concernant ce qui se passe justement, la nouvelle que Mathias vient de nous lire, ce qui se passe à Québec solidaire avec Alexandre Boulris.
Et il y a juste un petit problème, c'est que dans deux conseils généraux, les membres militants de QS ont décidé qu'il y aurait désormais, dans les circonscriptions dites gagnées actuellement, donc dans les châteaux forts, qui sont délaissés par leurs élus, là, donc Sherbrooke, Rosemont, Maurice-Richard, Sainte-Marie-Saint-Jacques et Gouin, ben là, qu'il y aurait des femmes ou des non-binaires en priorité. Alors, si M. Boulris veut aller dans Gouin, puisqu'il est implanté dans ce comté-là depuis longtemps, ben il faut une exception à cette règle-là qui a été adoptée.
Attends. Il y a un problème pour que Boulris se présente dans Gouin parce qu'il n'y a pas le bon sexe ou le bon genre?
Oui, c'est ça. Il y a un problème de genre.
Un problème de genre.
Un genre de problème.
J'adore.
Écoute, c'est tellement
ça
fou.
Fait pas de sens, là.
Ben, cette règle-là, moi, je me rappelle quand QS l'avait adoptée, je me suis dit, mais quelle erreur à de nombreux degrés. Premièrement, c'est sexiste.
Okay? Ben oui.
Puis là, c'est un tabou, le sexisme anti-homme, là. Mais je veux dire...
C'est... Ben non, mais c'est sexiste. Du sexiste, bon. C'est du sexiste, peu importe le sexe.
Ça veut dire que tu peux pas être candidat si t'as pas le sexe requis.
C'est ça.
Donc, c'est du sexisme. Et deuxièmement, pense-y deux secondes. Ce qu'Antoine Robitaille et Emmanuel Latraverse discutaient il y a un instant, c'est ça. C'est que t'as un bon candidat. C'est un homme, ça donne le pauvre, là, il est taré, là, il a la tare d'être un homme. Là.
Ah oui. Et un là, homme blanc en plus, plein de confiance.
En plus, rempli de confiance en lui. Et il est implanté là, c'est un super bon candidat, mais tu peux pas, parce qu'on a décidé que c'était un comté réservé à des non-hommes. Donc déjà, c'est fou et c'est pas stratégique. Tu te laisses pas de flexibilité pour avoir des bons candidats, peu importe. Mais la deuxième raison, c'est que ça t'oblige à identifier ce qui est un comté prenable ou non. Et quand tu es un parti politique, tu ne veux jamais faire ça.
Okay? Ben
à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, les partis disent c'est quoi vos comtés. Les médias nous demandent à des partis c'est quoi vos comtés cibles. Combien vous en voulez. Puis jamais on répond à ça. Comment démotiver tes candidats dans les comtés considérés à l'interne comme non prenables?
Ben exactement. Puis aussi, tu sais, comment soulever lire peut-être un peu aussi des gens dans ce contexte-là. Que ah ouais, tu me prends pour acquis, toi?
Bien, tu me prends pour acquis. Donc là, une fois que tu as décidé que les comtés prenables étaient réservés à des non-hommes, donc tu réserves des comtés pas prenables en disant oh « oui, les hommes, vous pouvez vous présenter dans les comtés pas prenables. » Hey, c'est motivant sur un moyen
ben, c'est
temps.
Ça. Ça motive personne à l'interne, ça motive personne à se présenter comme candidat. Puis moi, là, pour montrer à quel point ça n'a pas de sens ce qui a été voté, je vais te faire un comparatif. Non, c'est quand on est dans l'entre-période. Là, je peux être Dieu à Dieu avec toi, Anthony.
Jeff est tellement focus présentement.
Yes. Tu sais, pour te montrer à quel point c'est ridicule, imagine ce que QS dirait si le Parti conservateur du Canada disait « Hey, savez-vous quoi? Les comptes en Alberta, ça, c'est notre château fort. Des hommes blancs. Pas ben juste non. Des hommes blancs, des vrais rednecks. »
Ben non, ils feraient pas ça, mais...
Non,
moi,
mais tu comprends.
Moi,
là, QS déchirerait sa chemise.
Ben,
puis dirait ça n'a pas d'allure.
Ben, moi aussi, je déchirerais ma chemise.
Ben, moi aussi, je déchirerais ma chemise.
Il n'y a pas d'obstacle en ce moment à ce que des hommes blancs aient des bons comtés. OK, on va se le dire. Là. C'est vrai qu'il y a des obstacles à certains groupes de la société qui sont moins représentés en politique. Mm-hmm. Moi, je suis pour ça, là, mettre des choses en place
ben,
pour
oui.
avoir une parité puis une meilleure représentativité.
Moi aussi.
Mais la manière dont s'y prend Québec solidaire, c'est juste fou.
Ben, c'est parce que c'est en excluant les autres.
Ben, c'est que tu exclus. Après ça, ça polarise énormément. Il y a moyen de s'organiser pour avoir des bonnes candidatures féminines, masculines ou non binaires. Mm-hmm. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sans dire c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est tellement pas stratégique et c'est tellement représentatif du manque de pragmatisme de ce parti-là qui veut avoir raison et non gagner. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Guillaume Boivin. C'est un ancien conseiller politique qui a écrit une lettre ouverte dans Le Devoir très intéressante et qui invite les membres de et les militants de Québec solidaire à choisir est-ce qu'ils veulent être un parti qui peut gagner ou pas. Donc, on en reparlera tantôt. Moi, je pense que c'est très clair que QS, en ce moment, ne choisit pas ses combats. On a raison. Et ça crée toutes sortes... En fait, il se tire dans le pied.
Ben
c'est ça
oui.
qui se passe. Donc, pour Alexandre Boulris, là, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on nous annonce qu'on va faire une exception.
Ouais.
Donc, non seulement ta règle est niaiseuse, excuse-moi, mais en plus, tu peux la contourner comme tu veux.
Ben oui, pourquoi? Ben là, c'est parce qu'Alexandre Boulris, on s'entend, c'est un député présentement élu du NPD. Depuis 2011, c'est une figure connue Pas que là, ça n'a plus d'importance, que ce soit pas une femme ou qu'il soit pas non-binaire.
Donc, ça, c'est réservé pour des femmes, sauf si un homme blanc, populaire, connu, veut y aller.
Ben là, Ruba Gazal a de refuser de confirmer que c'était spécifiquement pour Alexandre Boulris l'exception. Fait que on peut lui donner bénéfice du doute. Hein?
Parfait, je vais écrire à Ruba Gazal et je vais lui dire, savez-vous quoi, Mme Gazal, je vais être à votre conseil général en fin de semaine.
Tu vas prendre
et
ta carte
je vais me présenter dans Gouin. Ben, est-ce qu'on fait l'exception?
Dans Gouin, je ne suis pas sûre que ça va marcher, Jeff. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas implanté là.
Oui, exactement.
Mais à Québec, par contre. Mais y a, je ne sais pas s'il y a des comptes prenables en ce moment à Québec qui sont disponibles.
D'après moi, Tachereau va repasser au PQ. Le comté de Solzanetti. Mais ce n'est pas un château fort. Il n'y a rien à Québec qui est un château fort QS. Ça, c'est certain.
Mais j'aimerais quand même saluer le courage d'Alexandre Boulris qui s'en va d'un parti en perdition vers un autre parti qui va pas très bien. Je vais pas dire en perdition parce que je trouve même que la situation de Québec solidaire est plus... des perspectives plus positives que le NPD au Québec. Peut-être qu'il pense qu'il est capable, lui, de réformer aussi ce parti-là et de le rendre plus pragmatique, mais on s'entend que GND s'est quand même cassé le nez sur la porte pas mal fort.
Mais tu considères que c'est du courage, puis pas juste quelqu'un qui essaye de fuir le bateau du NPD qui s'en va en coulant puis solide à part de ça?
Il y a des bateaux de sauvetage plus rassurants que QS.
Oui,
moi,
c'est
vrai. Je vois un certain courage. Honnêtement, si c'est ses convictions à lui, ses valeurs, et qu'il décide qu'il veut faire le saut vers la politique provinciale, et que c'est Québec solidaire qui a le programme qui répond le plus à ses valeurs. Moi, je salue le non-opportunisme. Parce qu'en ce moment, Québec solidaire, honnêtement, c'est pas évident. C'est sûr qu'il est dans un bon comté. La preuve, on voulait le réserver pour une femme. Donc, ça doit être un bon comté.
Mais tu sais, je vais être plate deux secondes. Mais t'sais, oui, courage, mais en même temps, il va partir avec sa pension du fédéral.
Ah, t'es plate.
Puis là, ben, il s'en vient à QS où le bateau coule, puis il rêve d'être un chef.
Ben justement, avec ta pension fédérale, t'es pas obligé d'aller te faire suer à continuer à faire de la politique dans un parti que ça n'a pas l'air trop facile à gouverner.
Parce que là, ça va chicaner en fin de semaine. Là, parce que les féministes, le regroupement de féministes du côté de QS vont être contre.
J'imagine.
Le regroupement de souverainistes va être contre parce que Boulris, il a déjà scratché un souverainiste du NPD.
Effectivement.
Mais là, il se dit souverainiste. Mais les souverainistes le croient pas.
Écoute, il a le goût de se donner du trouble.
Ben, c'est ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Il est courageux. Il a le goût de se donner du trouble.
Il y aurait des options. Excuse-moi, mais tu sais, il pourrait devenir commentateur d'un média puis faire une très belle vie aussi, mais il peut continuer de servir le public. Donc, moi, je salue ça, oui.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, Anto, mettons, la porte qui est là dans le studio, ça, nous autres, le studio, on est le Parti conservateur. OK? Ah. C'est la chambre du Parti conservateur du Canada.
OK.
Et là, moi, je t'imite Matt Gineroux.
Hey! Jeff est parti.
Je vais aller voir le Parti libéral! Salut,
guys!
Bye, Jeff!
Hey, salut, Jeff!
C'est ça qui vient d'arriver, dans le fond. Ben... Gineroux, il était censé partir complètement. Puis là, soudainement, il a parlé à Mark Carney, puis il a dit, Mark, moi pis toi.
Bon. Ce qui s'est passé avec Matt Gineroux au moment où il a démissionné, il était censé traverser la Chambre.
Oui.
Mais ça a tellement brassé avec les conservateurs et il y avait même des rumeurs d'intimidation.
Parce que c'était directement après crise d'Entremont.
Oui. Que finalement, il a annoncé qu'il quittait. Donc, c'est comme s'il avait semi-choqué en bon français. Sauf que là, les mois ont passé et visiblement, les négociations se sont poursuivies avec le Parti libéral du Canada. Et on voit que M. Carney se rapproche d'une majorité. Bon, là, vous allez vous dire, écoute, il me semble que ça fait beaucoup de gens qui traversent puis il n'est toujours pas majoritaire. Là. Il y en a eu quelques-uns. C'est parce qu'il en a perdu aussi, M. Carney. Fait que c'est comme un petit tango. Là. C'est avance-recule vers la majorité. Mais si M. Carney devait gagner les partiels qui vont avoir lieu dans les prochains mois, en plus des transfuges qu'il y a, il s'en va vers une majorité. Là. Parce qu'il y avait pas mal de monde qui pensait qu'il y aurait des élections au printemps, puisque les sondages sont assez favorables. Puis quand tu as une minorité puis que tu as des bons sondages, souvent ce que tu vas faire, c'est que tu vas remettre tout au jeu pour essayer d'aller chercher ta majorité. Mais à force de grappiller un député à la fois, M. Carney pourrait se retrouver avec sa majorité. Et j'ajoute là-dedans, on vient de parler d'Alexandre Boulris, la circonscription de M. Boulris, le NPD la garde juste parce que c'est Alexandre
Dubé. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, on l'aurait passé aux mains des libéraux dans la dernière élection.
Là, ils vont essayer de présenter probablement la conjointe d'Amir Kadir là, qui se présente à chaque année aux élections fédérales. Tu sais, une très bonne candidate.
Oui, mais tu sais, il y a une candidate brûlée aussi en même temps.
Ben, le NPD est brûlé au Québec.
C'est ça.
NPD est brûlé coast to coast, là, à peu près, au Québec, il est complètement absent.
Ouais,
c'est
le NPD existait au Québec parce qu'on a trippé sur Jack Layton.
C'est ça. Donc, les libéraux sont en très bonne position pour le gagner. Faudra voir. Là, je ne veux pas dire que les autres partis ne peuvent pas l'emporter. Ça dépend des candidats, ça dépend de plein de choses. Mais ça fait quand même plusieurs circonscriptions que M. Carnier peut aller rechercher. Et Terrebonne, c'est un cas particulier. Parce que dans Terrebonne, on sait, la Cour a annulé l'élection. On doit recommencer l'élection. Et le bloc est à égalité présentement, si on regarde les projections de sièges de Canada 338, est à peu près à égalité. Mais dans les faits, M. Carney, les sondages sont très favorables au Québec, très populaires.
Exactement.
Donc, est-ce que le bloc va vraiment réussir son pari? Donc, réussir à annuler l'élection, refaire une élection dans Terrebonne, mais sans la garantie d'être capable de le gagner, finalement.
Je serais porté à dire que ça ne fonctionnera pas du côté du Bloc québécois, parce que, d'autant plus qu'on continue cette guerre-là avec les États-Unis, puis j'ai critiqué Mark Carney pour des non-décisions, mais là, le plan avance vraiment bien avec des ententes économiques un peu partout dans le monde, que ce soit la Chine ou l'Europe. Donc, tu es un citoyen de Terrebonne, puis tu te dis « Ouais, à ta minute, là. » J'ai des bonnes chances que je vote libéral.
Terrebonne, ça a été bloquiste pendant longtemps. Donc, le bloc
PQ a été élu de façon très importante dans l'élection partielle.
C'est très bleu. On va dire ça comme ça. Même turquoise, des fois, selon le palier de gouvernement. Donc, ça va être quand même enlevant là, comme élection partielle. Et les enjeux sont énormes pour les deux partis. Parce que, bon, Carney, lui, c'est sa majorité qu'il essaie d'aller chercher. Donc, quand même pas inintéressant quand tu réussis à aller chercher dans le cadre d'élections partielles comme celle-là. Et du côté du Bloc, ça enverrait tellement un mauvais message de perdre Terrebonne. Donc, tu vas avoir vraiment deux équipes hyper motivées, hyper mobilisées qui vont mettre la gomme. Et hier, Mike Carney était à Terrebonne. Tu sais, il vient pas souvent au Québec, là, on va dire la vérité. La dernière fois qu'il est venu, c'était pour nous dire que la guerre de conquête, c'était une épluchette de blé d'Inde, puis que tout allait bien. Bien, là, il est revenu au Québec. Et c'était pour aller appuyer là, sa candidate dans Terrebonne. Il a fait une tournée, il a rencontré le maire, etc. Est-ce que Yves-François Blanchet est aussi populaire en ce moment sur le terrain que M. Carney? Je suis obligée de dire que je pense que non.
Puis là, on voit des libéraux qui pourraient gagner ces partiels-là. Du côté du Parti conservateur, c'est quoi qu'on se dit? Parce qu'on n'est pas nécessairement en hausse de popularité non plus dans des sondages.
Surtout M. Poilievre.
Ben c'est ça. Fait qu'on veut-tu essayer de forcer une élection dès le printemps pour dire « Hey, on va essayer de renverser à vapeur pour pas qu'il prenne une majorité? » Mais en même temps, on sait qu'il gagnerait probablement la majorité à des élections générales de toute façon.
Oui. M. Poilievre a juste des mauvaises options devant lui, parce que partir en élection sans garantie de gagner, c'est pas très intéressant, sauf qu'il voit bien que M. Carney se dirige vers une majorité. Et si M. Carney réussit à avoir sa majorité, ça devient vraiment plus compliqué pour M. Poilievre, parce que les sondages sont pas très favorables. Au Québec, M. Poilievre, ça ne passe pas beaucoup.
Oh, on reste toujours entre 22-22%.
Il est polarisant au Québec.
Oui.
Et pourtant, c'est pas parce qu'il fait pas d'efforts, parce que je salue l'engagement de M. Poilievre au
clairement.
Québec. Il vient souvent, il connaît bien le Québec. Dans la campagne électorale, il a fait des promesses qui étaient la liste d'épicerie du gouvernement du Québec, même sur des enjeux sur lesquels le Parti conservateur n'a pas toujours été chouchou à l'idée.
Ben, rappelons-nous que François Legault a déjà dit « voter conservateur ».
Oui, ben ça, c'était
vraiment
super. C'était
une erreur stratégique de François Legault.
C'était super. Mais le Parti conservateur, les questions de laïcité, par exemple, ils sont pas laïcs, pas en tout. Allez voir le Twitter de Pierre Poilievre. Il salue toutes les petites fêtes religieuses. Aujourd'hui, c'est le Ramadan qui commence. On souhaite un bon Ramadan à tout le monde qui le font. Mais M. Poilievre est tout le temps dans le clientélisme religieux aussi.
Oui.
De dire qu'on allait laisser le Québec faire ses propres lois en matière de laïcité, ça brasse quand même à l'interne quand un parti fédéral dit ça. Puis pourtant, il avait mis ça dans sa liste de promesses. Donc, il a fait des efforts quand même substantiels pour pogner au Québec. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas de croissance du Parti conservateur au Québec. C'est les mêmes députés qui se font élire encore et encore, capables d'aller chercher un petit député de plus par-ci, par-là, des fois. Donc, c'est très difficile. Et du côté plus national, pour Pierre Poilievre, oui, il a passé son vote de confiance, Mais on est dans un contexte où, ben, premièrement, il n'a pas trop mal fait en campagne électorale. Les résultats ne sont pas si mauvais. Hein.
Ben alors, ben, t'es en termes de pourcentage de vote, c'est le meilleur pourcentage de vote
que
le Parti conservateur du Canada est allé chercher.
Puis tout le monde comprend que, je veux dire, le contexte international, ce n'est pas de la faute à Pierre Poilievre s'il a changé dramatiquement puis qu'il a changé d'adversaire du jour au lendemain. Donc, il y avait de la tolérance pour avoir perdu l'élection, parce que souvent, les chefs qui perdent une élection perdent leur place. Mais maintenant qu'on tomberait en mode majoritaire, ça donne plus de temps pour se dire « Est-ce qu'on a vraiment le meilleur chef pour la prochaine campagne électorale? » Quand on est en minoritaire, tu te dis « Là, j'ai un pilote qui n'est pas pire. Il n'est pas super populaire, mais tu sais, on va le garder parce que là, on peut partir en élection n'importe quand. » Mais si l'élection est dans 3 ans et demi...
Ben là, tu as le temps de te rebâtir.
Là, tout à coup, tu peux avoir de l'imagination là, pour imaginer le chef idéal.
Y a-tu de la relève, par exemple, au Parti conservateur du Canada?
Écoute, non.
C'est ça, hein?
Parce que c'est... Il n'y a pas de nom qui apparaissent là, comme étant le successeur naturel en ce moment.
Puis avant Poilievre, on critique Poilievre, mais avant lui, c'était Andrew Scheer puis Erin O'Toole. Ouais. On s'entend, c'est le moins pire des trois.
Ben c'est ça. Ouais. C'est pas évident qu'il y a quelqu'un qui va apparaître puis être le prochain chef.
Les Mulroney?
Bien, là, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que t'as un peu deux mouvances au sein de ce parti-là. T'as la mouvance plus parti conservateur, plus populiste, progressif conservateur, reform un peu. Mm-hmm. Et de l'autre côté, t'as les vieux Tories, donc les conservateurs plus classiques, donc des Mulroney, des Jean Charest, par exemple. Un Doug Ford,
justement, Serge qui vient d'écrire par texto « Doug Ford au Canada ».
Oui, mais Doug Ford, c'est plus les... Tu sais, il est très proche de Carney en ce moment et ce serait plus de l'autre mouvance. Le Parti conservateur d'aujourd'hui est beaucoup plus proche maintenant de ce Parti conservateur plus populiste, plus reform. Donc, c'est pas si évident que quelqu'un qui arrive de l'autre mouvance serait capable de reprendre le parti si facilement que ça. Ouais. Donc, pour l'instant, moi, j'ai bien de la difficulté à vous dire, là, les deux noms là, qui circuleraient, ce seraient ceux-là. Je n'ai aucune idée. Et M. Poilievre n'a pas mis beaucoup son équipe de l'avant dans les dernières années. Même en campagne électorale, là, c'était un one-man show. Là.
Ben, en effet, parce que je ne suis pas capable de te nommer beaucoup de députés du Parti conservateur du Canada.
T'sais, on connaît nos députés ici au Québec.
Ben, Pierre Paulus, Gérard Deltel,
c'est ça,
Dominique
ils viennent nous voir. Là, puis
Dominique Anglade, Dominique Vien, je suis en train de faire...
C'est pas la même personne. On les connaît, mais tu sais, quand venait le temps d'essayer d'imaginer un conseil des ministres de Pierre Poilievre, on avait de la difficulté parce que c'est beaucoup un one-man show, ce parti-là. Donc, c'est pas évident de voir la suite des choses, mais il doit être inquiet, M. Poilievre, quand même, de voir que M. Carney se rapproche de sa majorité à force d'aller chercher comme ça des députés.
On termine avec l'entrevue qu'on a fait avec Bernard Drainville ce matin dans Marceau le matin. Marceau le matin qui est de 6h à 10h. C'est disponible l'entrevue sur le blvd.fm. Premièrement, Bernard Drainville qui défend son lien central.
Et puis moi, je vous dis que le projet actuellement qui est sur la table, c'est peut-être pas le projet dont rêvent les gens, mais c'est un projet qu'on est capable de se payer. Puis c'est un projet qui est en marche. Moi, ce que je dis, c'est qu'avec les conditions qu'elle a mises sur la table hier, dans les faits, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis fin au projet du troisième lien. On a beau enrober ça dans ce qu'on voudra, c'est ça la réalité.
Hey, c'est pas grave, on fait un mauvais projet à 10 milliards. Tu sais, 418-971-1021 ce matin, vous étiez plein à dire « ça n'a pas d'allure, le corridor central ». Êtes-vous le même crowd ce midi? 418-971-1021, voulez-vous du corridor central, oui ou non?
Bien, c'est ça. C'est qu'on a l'impression, puis il n'y a pas tort non plus, là, M. Drainville. Puis hier, on avait Mme Fréchette en entrevue, puis on lui a posé la question. Une fois qu'on met toutes les conditions de la phase 1 puis de la phase 2 en branle, il n'y en aura pas de troisième lien, on est d'accord.
Bien non.
Donc, est-ce qu'on va, en fait, toute vapeur vers un projet dont personne ne veut vraiment? Ou est-ce qu'on remet encore énormément au calendrier grec? C'est un peu les choix qui sont offerts présentement aux membres de la CAQ. Parce que je rappelle, là, ces candidats-là, ils parlent aux membres de la CAQ pour l'instant. Et s'il y a des gens qui veulent absolument se positionner sur la question du troisième lien, ils peuvent prendre leur carte de membre. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Là. C'est qu'à peu près 15 000 membres de la CAQ, puis ils vont peut-être même pas tous voter, vont décider du sort du troisième lien.
Tu m'ouvres une porte là-dessus. Bernard Drainville est venu... Une fois en studio en entrevue à On en jase, il est venu ce matin. À chaque fois, il termine en disant « Hey, que tu soyez caquiste ou pas trop, c'est pas grave, 15$, prenez votre carte. » J'ai de la misère avec ça.
Pourquoi?
Ben, j'ai de la misère avec le fait que tu dises à des gens qui croient pas à la CAQ « Viens, mets-toi membre de la CAQ puis vote pour moi, je vais être le chef de la CAQ. »
Ben, surtout... c'est qu'on ne le sait pas encore, ça va être quoi la CAQ? Parce que la CAQ de Fréchette, ce ne sera peut-être pas la CAQ de Drainville et vice-versa. Mais je me disais, moi, hier, quand j'ai vu les réactions à la suite de l'annonce de Fréchette. Parce que quand même, les réactions ont été assez positives dans un dossier qui est, disons-le, pourri de bord en bord. Madame Fréchette, peu importe ce qu'elle allait annoncer, t'sais, je regardais la une du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec, pardon, c'était une septième version du troisième lien pour la CAQ, puis je sais pas, mais t'sais, on tournait tout ça en ridicule.
Ben oui.
C'est sûr, elle peut pas effacer ce qui s'est passé, Mme Fréchette, puis M. Dréville non plus. Cela dit, les réactions ont quand même été positives. J'ai vu le maire de Québec, sa réaction était correcte.
Ouais.
Du côté de Lévis, la réaction de M. Blainey était bien correcte. Aussi, il y avait de l'ouverture pour ce que Mme Fréchette disait. On a reçu la PDG de la Chambre de commerce de Lévis aussi, puis il y avait une préférence aussi pour le tracé de Mme Fréchette. Donc, je me disais, mon Dieu, pauvre M. Dréville, ça doit être difficile. Puis surtout qu'il y avait Martine Biron aussi, sa voisine de circonscription, qui était à l'annonce de Mme Fréchette. Puis je parlais avec mon chum. Il n'aime pas ça, mon chum, quand je le cite en onde, mais tant pis. Puis il me dit, tu sais, si j'étais Bernard Dréville, je me mettrais là, dans le trafic. Là. Puis là, j'aurais des codes QR. Là. Je dirais, voulez-vous un troisième lien? Puis là, les gens pourraient genre prendre leur téléphone puis cliquer sur le code QR, puis ça amènerait directement à la carte de membre. Puis ça dirait, votez Dréville.
Oui, mais comme je viens de te dire, moi, j'aime pas cette stratégie-là de dire, je vais remporter la chefferie d'un parti politique avec des outsiders du parti politique.
C'est tout ça sur un projet.
T'sais, oui, exactement.
Un parti politique, ton engagement envers un parti, c'est santé, c'est éducation, c'est la vision économique, c'est ta vision de la solidarité, jusqu'où il faut aider les gens ou pas, ou jusqu'où l'État doit s'impliquer. C'est beaucoup plus compliqué qu'un seul projet. Mais c'est sûr qu'en campagne, tu veux gagner la journée.
Ouais.
Des fois, gagner la journée... Ben, tu tires dans le pied pour les prochaines journées.
Ben, c'est ça. En tout cas, bref, j'aime vraiment pas cette façon de procéder-là. Ceci dit, ben, on salue le courage quand même de Bernard Dréville d'aller contre vent et marée.
Puis aussi que les caquistes, les membres de la CAQ aient un choix.
Oui.
Moi, je trouve ça vraiment correct puis qu'il y ait des débats. Par contre, il ne faut pas que les débats tombent trop dans le personnel. Pourquoi? Parce qu'après, il va falloir que ces gens-là travaillent ensemble. Hein? Après une course à la chefferie, il y a une réconciliation.
Mm-hmm.
Et si on tombe trop dans l'acrimonieux, dans le personnel, ça rend l'unité par la suite très difficile.
Ouais, je crois pas vraiment à la réconciliation, Bernard, Christine.
Non,
pas vraiment.
Okay.
Antonine Iacarini, merci beaucoup pour ce caucus qui est du lundi au jeudi à l'émission On en jase, de 12h05 à 12h30. Dans un instant, à Boulevard 101, à l'émission On en jase, on va avoir Steve Lavoie, député de Beauport-Limoilou. Là, vous dites Steve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, Parti libéral du Canada. Ah oui, le tramway à 13 milliards. Ben oui, on va y poser la question, à savoir si c'était une erreur et pourquoi et comment il a fait cette erreur-là. Et on va jaser également des priorités dans la région de Québec. Et aussi, on va avoir Alicia Despins pour une chronique municipale. Ça brassait hier au municipal, conseil de ville. Ça brasse beaucoup autour du tramway, des façons de communiquer. On va vous faire entendre justement un extrait de Bruno Marchand à ce propos. C'est dans un instant l'émission On en jase sur Boulevard 102. On en jase sur les ondes de Boulevard 101. C'est ton rendez-vous du midi. Il est exactement 12h41. Évidemment, la météo. Comme on dit depuis le début de la semaine, c'est une superbe semaine hivernale. 0 degré présentement et ensoleillé sur Québec. Moins 1 degré ensoleillé pour demain, moins 5 ensoleillé pour vendredi. Et à plus long terme, c'est moins 6 et moins 1 pour samedi et dimanche. Full soleil, c'est très, très, très plaisant. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire que l'autoroute 40 en direction ouest s'est fermée depuis maintenant 2 heures de temps entre route 153 et route du Pays Brûlé. C'est simplement un détour par les réseaux locaux, là, si vous avez des informations. 418-971-1021 par texto.
Vous mentionnez qu'on est à la mi-période, mi-troisième période. C'est toujours 2-2 entre le Canada et la Tchéquie. On va souhaiter que ça soit pas un scénario.
Le stress commence à monter, mettons.
C'est ça. De championnat junior qui se répète, où on le sait, où la Tchéquie a éliminé 3 années consécutives le Canada en fin de match dans des matchs serrés, dont 2 fois en quart de finale. On a avec nous le député de Beauport-Limoilou pour le Parti libéral du Canada, M. Steve Lavoie. M. Lavoie, comment allez-vous?
Ça va très bien. Bon midi à tout le monde.
Bon midi. M. Lavoie, je vous vois avec votre manteau pas de manche des Jeux du Canada. Avez-vous hâte aux Jeux du Canada à Québec?
Ben oui, il faut être fier pour nos jeunes. Alors, il y a toute une organisation derrière ça. Faut en parler. C'est dans un an et demi environ.
Oui.
Alors, je suis fier ambassadeur de l'organisation et de l'événement. Alors, je me suis acheté une petite veste, ça leur permet de les encourager. Le comité organisateur a besoin de ramasser des sous pour bien recevoir nos jeunes. Alors, j'incite tout le monde à faire pareil.
Ouais. On pourrait-tu avoir un petit cadeau? Là? On construit un centre de curling juste avec l'argent de la municipalité là, pour les Jeux du Canada. On va-tu avoir un petit cadeau des libéraux?
Ah, écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement, par rapport à ce projet-là.
C'est dommage. Je veux qu'on revienne également sur un projet de Québec parce que je n'ai pas le choix de vous poser la question. Vous avez dit en chambre 13 milliards de dollars pour le tramway alors que présentement, il est évalué à 7,6 milliards de dollars. Est-ce que vous nous avez annoncé une mauvaise nouvelle à l'avance?
Merci de me poser la question.
Ça fait plaisir. C'est à ça qu'on sert les médias. Posez les bonnes questions.
Ben, je suis content. T'es officiellement, là, t'es le premier média à qui je parle depuis l'événement. Écoute, 7,6, c'est le vrai chiffre. Je le savais. C'est vraiment une coquille qui s'est glissée. Puis, à la blague, je dis aux gens, il y en a qui vont être déçus parce que je vais leur dire une confidence. Je suis pas parfait.
Ouais.
Je fais des erreurs, comme tout le monde. Puis, vous avez tous vécu un contexte où que on crée un texte, puis là, 3-4 personnes passent dessus, personne ne voit la coquille.
Personne voit la coquille.
Il y a quelqu'un de l'externe qui le voit, puis on se regarde tout, comme si on ne l'a pas vu.
Alors, mais pourquoi c'est marqué 13 milliards? Ça référait à quoi, ce 13 milliards-là?
Ben, c'est que j'étais en train de parler du TGV, du projet du TGV, parce que oui, il vient à Québec, mais on s'entend-tu que je ne veux pas attendre qu'il se passe quelque chose pour qu'il ne vienne pas à Québec? Et on le sait, au niveau du tramway, les délais, les coûts ont monté. Alors, j'étais en train de démontrer que plus un projet prend du temps, plus ça coûte cher. Alors, moi, je veux m'assurer, puis je suis à Ottawa pour défendre les intérêts de Québec, que dire, là, on est prêt, le TGV, là, on allait de l'avant. Puis assurons-nous que Québec soit le départ et l'arrivée du TGV. Mais j'étais en train de démontrer ça.
Moi, M. Lavoie, je pensais que, en fait, vous étiez mêlé avec le troisième lien.
Ah!
13 milliards, ça devrait coûter à peu près ça?
Ben oui!
Bon, c'est ça. Fait que c'est, moi, je pense qu'elle vient de là, la coquille.
En fait, elle doit venir de là. Du côté du financement du tramway, présentement, c'est 1,45 milliard pour le fédéral. Ça ne correspond pas à 40 % de 7,6 milliards. Quand est-ce qu'on va l'avoir, cette nouvelle-là du fédéral qui nous donne l'argent? Parce que là, la CAQ revire de bord sur le troisième lien à l'Est à cause du coût. J'ai peur qu'on revire de bord pour le tramway aussi, là.
Ah non, bien, on espère qu'il ne revira pas de bord parce que nous, du côté fédéral, c'est clair, net et précis depuis le début. Tout le monde l'a répété, mes collègues l'ont répété, le ministre Lightbourne l'a répété dernièrement. On est derrière le projet. Le 1,44 milliard, il est là. Alors, quel projet va démarrer? Nous, on a toujours dit qu'on était pour les projets structurants. Mais là, on va attendre que le projet démarre. Mais on a toujours été là, puis on va toujours être là. C'est des projets qu'on veut pousser comme infrastructure au Canada.
Mais là, on va couper 1500 arbres. Il n'est pas amorcé pour vous autres, le projet?
Oui, tout à fait. Il est amorcé. Cependant, il y a toutes les ententes à faire avec Québec, présentement. Et là, présentement, on ne nous a pas demandé de faire un chèque demain matin d'un milliard de plus. Alors, on est en train, justement, de regarder le projet, mais on est là. On est là pour le projet. On a avancé 1,44 milliard. Le projet peut démarrer. On a dit qu'en 2026, il y a des sommes qui allaient se mettre dans les projets d'infrastructure. On le voit avec Maison Canada. Infrastructure, on est en train de reconfigurer tout ça au niveau du Canada. Parce que c'est pas seulement les logements Maison Canada, c'est les infrastructures qui accompagnent. Alors, on est en train de monter Maison Canada, puis tous les projets d'infrastructure vont en faire partie.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le maire Marchand qui dit que le TGV, parce que vous m'avez parlé de TGV, puis ça m'a fait penser à ça, devrait être connecté avec le tramway?
Vous voulez mon opinion personnelle ou l'opinion du politicien?
Ben, les deux. Ça peut être les deux.
Non, mais quand on voit des projets intermodaux comme ça, habituellement, ça se connecte. Ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent, on veut faire venir du monde à Québec. Puis après ça, ils débarquent puis ils rembarquent dans un autre transport en commun. Alors, la logique, elle s'est faite là. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont pouvoir embarquer dans le tramway après ça puis se rendre au centre-ville? Alors, dans n'importe quel pays européen, tu vas n'importe où, il y a un TGV, après ça, ils reconnectent avec un autre transport. Alors, logiquement, comme on dit, le GBS, ça devrait être ça. Mais là, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne suis pas à la place des gens du tramway puis je ne suis pas en train de me faire ingénieur non plus pour le TGV. Mais quand on regarde ce qui se fait ailleurs, habituellement, tous ces réseaux de transport en commun, comme
une chanson.
Ben oui, quand tu vois que je vais prendre le train à Ottawa, ben je débarque, je reprends un métro léger qui repart de là, qui m'amène au centre-ville quand je vais à Ottawa, et ainsi de suite. Alors, partout, c'est comme ça. Alors, à part de là, la logique. Là.
Est-ce que pour le TGV, vous êtes inquiet de sa popularité? Parce qu'il y a un sondage qui est sorti. Les gens disent, ben moi, je m'attends à payer à peu près 20-25$ de plus que Via Rail parce que sinon, ça va être hors de mes moyens. On est en train de se doter d'une infrastructure qui, malheureusement, va coûter trop cher pour le contribuable en sachant que le coût de la vie augmente partout? Là?
Bien, écoutez, je vous répondrai, je l'ai vu l'étude là-dessus. Moi, je vous répondrai que présentement, il ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs. Moi, j'étais un ancien banquier. Je suis capable de faire la différence entre dépenses et investissement. Lorsqu'on va investir, que ce soit au niveau du tramway ou du TGV, on va investir pour les générations futures. Quel coût dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que les gens vont être prêts à payer pour ça? Comment on va être... Écoutez, on a de la misère à savoir dans un an ce qui va arriver. La prévisibilité, là, il n'y en a plus. On voit ce qui se passe avec le sud de la frontière. Alors là, on prévoit une infrastructure pour les 50 à 100 prochaines années. Alors d'aller parler d'un coût que les gens vont être prêts à payer dans 10 ans, on va être où rendu dans 10 ans? Mais là, pour les générations futures, par exemple, on est en train, et souvent je fais l'exemple des grands-parents qui vont être capables bien plus facilement d'aller voir leurs petits-enfants. On est en train de leur dire comment ça va coûter eux autres, leur valeur. Alors, c'est un débat que, désolé, je n'embarque pas là-dedans parce que je me dis, travaillons sur l'investissement à long terme, puis les générations futures évalueront le coût qu'ils sont prêts à payer pour le faire.
Oui, puis là, moi, je vais donner mon avis personnel, mais le TGV, j'en rêve. Moi qui vais à Montréal à peu près à toutes les semaines. Donc, j'espère que ça va se faire, ce projet-là.
Tu penses juste à toi?
Je pense juste
avec
à moi.
L'argent des contribuables?
Bien, je contribue. Je paye beaucoup d'impôts, moi aussi.
Je t'agace, c'est
j'aimerais
vrai.
Bien ça, le prendre, le TGV, éventuellement. On a deux gros dossiers chauds à Québec en ce moment, puis j'aimerais avoir votre avis sur les deux. Là, j'ai l'air obsédée par le troisième lien, mais j'ai d'autres sujets, là, aussi. Là. Sauf que hier, c'était l'annonce du projet de troisième lien. Comment Mme Fréchette, Christine Fréchette, candidate au poste de première ministre quand même, nous a présenté sa vision pour le troisième lien. Vous avez été aussi PDG de la Chambre de commerce pendant longtemps. C'est des enjeux sur lesquels vous étiez positionné régulièrement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce-là, de ce projet-là, qu'on retourne encore à la table à dessin et qu'on envoie le tracé plus vers l'Est, mais après une série d'autres mesures de mobilité? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
Sincèrement, puis vous l'avez dit, j'ai été à la Chambre de commerce, puis mon point de vue n'a pas changé. Puis à l'époque, c'était ma réponse, puis c'est encore la même réponse aujourd'hui. À l'époque, ce que je disais, c'est est-ce qu'on peut avoir une étude de coût d'opportunité? Tu sais, parce que souvent, les gens disent, s'il arrive quelque chose avec
le pont de
Pierre-Laporte, économiquement parlant, mais il n'y a jamais eu d'étude là-dessus. C'est quoi le coût qui arrive quelque chose ou qui n'arrive pas quelque chose? Avant d'engager les frais là, pour les contribuables, puis on l'a dit tantôt, Jeff l'a dit, on peut-tu faire une étude savoir, avant de le positionner? Là, on est en train de le positionner sans savoir le coût d'opportunité d'en avoir un ou de pas en avoir.
Mais parce qu'il y a eu une étude intéressante qui a été faite par CDPQ Infra, mais qui était vraiment axée sur la mobilité. Mais effectivement, sur la sécurité économique, on ne l'a
y en a
jamais
pas eu.
Vraiment mesuré.
Il n'y en a jamais eu. Cache ta chambre n'a jamais eu. Puis c'est exactement, vous regarderez la dernière annonce que j'étais à la Chambre de commerce, je pense à la dernière entrevue que j'avais faite avec Gérald Filion, sur ce sujet-là. Et ce que je lui disais, moi, ce que je veux voir, c'est un coût d'opportunité. Parce que si c'est pas même si le pont La Porte, pendant deux mois, il est fermé, ça n'impacte pas les entreprises, ça n'impacte pas les particuliers, les gens, les citoyens.
Mais comment ça ferait pour ne pas impacter s'il faut passer par Trois-Rivières, par exemple?
Bien là, avec l'abaissement, par exemple, avec le pont de Québec, on aurait une autre option.
Il y aurait l'option d'abaissement du tablier qui est capable. Et est-ce qu'on sait tout le trafic qui fait S-Ouest, qui pourrait rester sur la Rive-Nord, qui traverse présentement? Tu sais, une étude, là, c'est pas juste Nord-Sud, Est-Ouest, qu'est-ce qui se déplace? Comment les entreprises seraient capables de s'arranger différemment pour envoyer peut-être plus du cabotage vers le fleuve maritime. Alors, il y a beaucoup d'options s'il arrive quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on les étudie avant de dire, OK, je le mets là ou je le mets là. Et ça, je pense que ça serait beaucoup plus responsable comme gouvernement, à mon point de vue, que de commencer à commenter où qu'on veut le mettre. Mais ça, c'est leur dossier. Je vais leur laisser. Nous, au niveau du fédéral, on l'a dit depuis le début, on est encore dans les infrastructures. Quand ça va faire du sens pour le citoyen, on parle beaucoup de transport en commun, on est là. Mais on va leur laisser le dossier pour l'instant.
Oui, bien, Mme Fréchette a parlé justement qu'elle voulait avoir une collaboration du fédéral pour son futur projet. Si elle vous arrive avec ces fameuses études-là sur la sécurité économique, est-ce que c'est une possibilité que le fédéral investisse dans ce projet-là?
Tout ce qui est infrastructure, on le voit depuis de plusieurs années au niveau fédéral, on revient toujours avec la même chose. Des infrastructures, des investissements à long terme qui vont ramener un bénéfice pour une région. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas juste dire on met de l'argent dans un projet. On veut voir les bénéfices pour le futur, pour une région. Alors, on va regarder chacun des projets. Mais oui, on le voit avec le nouveau gouvernement, avec M. Carney, comment qu'on va mettre de l'argent dans les infrastructures. Si on veut bâtir un Canada, comme on dit, un Canada fort, il faut investir. C'est le temps pour les générations futures. Et c'est des investissements.
Fait que si les études prouvent qu'il y a un impact positif pour l'économie et la population, on pourrait voir un investissement libéral parce qu'avec Pierre Trudeau, c'était même pas, il n'y avait pas de questionnement. Là. Si c'était un lien autoroutier, il n'y avait pas de financement. Là, s'il y a des études qui prouvent que ça a un impact positif, Est-ce que le fédéral pourrait embarquer? Oui ou non?
Est-ce que ce dossier qui va être étudié? Oui. Qui va être regardé, analysé? Oui. Mais je ne peux pas donner la finalité, là, parler à la place des spécialistes. Là.
Je termine en vous demandant quelles sont les priorités pour Québec, pour le gouvernement Carney. J'en vois plusieurs. Projet QSL, rénovation du port de Québec. Quand est-ce qu'on annonce des investissements?
écoute, priorité Québec. Si on parle à Steve Lavoie puis au Parti libéral, le logement, l'abordabilité. Les annonces qu'on a faites, même si c'est à la grandeur du Canada, moi, ça touche des gens directement dans ma circonscription. Tu sais, la dernière allocation pour l'épicerie, là, c'est 39 000 personnes juste dans ma circonscription. Là. C'est énorme au niveau que ça touche les gens. Et c'est directement dans leur poche. Alors ça reste une priorité, l'abordabilité pour les gens. Le logement social, on le voit avec Maison Canada, logement abordable, l'investissement qui est fait pour accélérer les projets et mettre de l'argent dans les infrastructures. Parce que le problème, c'est bien beau faire des logements, mais si les égouts sont pas là, et ainsi de suite, alors on met de l'argent là-dedans. Alors, ça reste les priorités. Pour les autres projets, on travaille fort pour notre part. C'est important. Écoute, vous l'avez vu, la première page du budget, c'était ici à Québec. Nos infrastructures maritimes sont primordiales. On veut doubler d'ici 10 ans l'Europe, nos exportations. Bien, il faut des infrastructures qui tiennent la route. Moi, je fais partie du comité permanent sur le commerce international et on en parle beaucoup des ententes ailleurs en Asie-Pacifique pour justement augmenter là-bas. Mais quand on va faire des affaires en Europe, on ne peut pas juste y aller pour 2 ans. Les autres, ce qu'ils nous demandent, c'est « Je peux-tu t'avoir à plus long terme?
Mm-hmm. »
Alors, on est en train de construire sur du long terme et vous le voyez avec M. Carney, c'est par étapes. Une étape après l'autre, mais tout c'est en train de s'emboîter. Vraiment.
Steve Lavoie, député de Beauport-Limoilou pour le Parti libéral du Canada. Merci beaucoup pour votre présence en studio avec nous aujourd'hui.
Merci de l'invitation.
On retient que c'était une erreur, le 13 milliards. On va retenir ça.
Ben oui,
il y a
ben
des
oui.
auditeurs qui sont sceptiques.
Ben oui, mais écoute, les gens qui me connaissent, ils me savent très bien que j'ai pas peur de dire que j'ai fait une erreur. et même avant que ça spin, que ça sorte, ouais. mon équipe avait déjà envoyé un communiqué pour dire qu'il y avait eu une erreur. Alors, j'ai pas eu besoin que personne me le rappelle.
Merci, M. Lavoie, pour votre présence. Merci. Très appréciée. Merci beaucoup.
Bye-bye. Au revoir.
On en jase jusqu'à 14h.
OK. On va aller rejoindre Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale à l'émission On en jase. Les gens l'apprécient beaucoup, ancienne conseillère municipale de Vanier-du-Berger. Mais avant, Mathias, le ciel est en train de tomber sur la tête du Canada en entier.
Oui, c'est présentement... Puis pire cauchemar est en train de se réaliser, j'ai envie de dire. Là, la Tchéquie nous en fait vivre de toutes les couleurs au championnat mondial junior. C'est présentement 3-2 pour la Tchéquie, avec 5 minutes 38 à faire face au Canada. On est encore de finale. Si on perd ce match-là, notre rêve olympique est fini.
Exactement, c'est terminé si jamais on perd ce match-là. Vous allez peut-être me perdre avant la fin de l'émission, son père.
Ouais, non,
peut-être
mais...
que mon cœur va lâcher.
Moi, je t'avais dit, Jeff, je m'en vais me cacher dans une grotte pour les 4 prochaines semaines, je pense.
Vous êtes énormément à réagir sur nos entrevues par texto et merci beaucoup. Il y a des gens qui écrivaient. Il y a des bons points, Steve Lavoie, avec l'étude d'opportunité pour le troisième lien. Il y a David qui m'écœure en me rappelant le championnat junior concernant la Tchéquie contre le Canada. Il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec ces points. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très intéressant. On va rejoindre Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien. Vous autres aussi?
Ben oui, ça va super bien. Alicia, un gros conseil de ville. Hier, Bruno Marchand a dû se défendre face à son manque de sensibilité pour les citoyens et les commerçants avec les travaux du tramway. Je te fais entendre l'extrait. Par la suite, on en discute.
On travaille dans ce projet-là à être super proactif sur la communication. Alors oui, j'exprime aux équipes qu'il faut voir venir les choses plus en avance. Je n'ai pas manqué de sensibilité, parce que c'est moi qui pousse là-dessus. C'est moi qui pousse qu'on fasse de la communication proactive comme on n'en a jamais fait. Alors, cette sensibilité-là, elle est là. Cette préoccupation, elle est là. Là-dessus, il y a eu une communication qui a été erronée. Donc, il y a eu une confusion de deux appels d'offres et de l'information qui vous a été donnée qui n'était pas la bonne. Maintenant, il n'y a aucune intention ni de cacher. C'est pas possible de cacher la coupe d'un arbre, là.
T'es Alicia, je n'ai pas manqué de sensibilité, mais moi, je parle avec Marie Lajoie, la PDG de la Société de développement commercial de Montcalm, puis elle me dit, écoute, je ne sais pas quand est-ce que les travaux vont avoir lieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va impacter. Je ne sais même pas si je peux faire les fêtes que j'ai prévues cet été. Je parle avec des restaurateurs, ils disent, je ne sais pas si le monde va pouvoir se stationner devant mon restaurant. Je parle avec le conseil de quartier, ils disent, on ne le sait pas, on n'avait jamais été avisé des arbres. Fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tout dire des menteries puis Bruno Marchand en vérité.
Mais tu sais, les principes de base en thérapie de couple, il y a beaucoup de ça, là, de commencer par admettre ses torts et voir ça. Les choses du point de vue de l'autre personne dans ce couple-là. Donc, si Bruno Marchand et les commerçants sont un couple, ben peut-être que la première étape pour Bruno Marchand, ce serait de reconnaître que peut-être que la façon dont il communique en ce moment, les gens peuvent se sentir comme ça, puis c'est correct, il y a juste à s'ajuster, puis à s'assurer là que cette étiquette-là, je pense que c'est son plus grand danger en ce moment, c'est que ça lui colle à la peau. Parce que si ça reste trop longtemps, cette étiquette-là de personne insensible qui prend pas en considération la réalité des commerçants, ben ça va être très difficile, puis ça va se faire sentir dans toutes les phases du projet de tramway. Là. Donc, il va être pogné avec ça au moins pour les trois prochaines années, parce qu'on a encore pour plusieurs années. Donc, selon moi, ça devrait vraiment être sa priorité de se débarrasser de cette étiquette-là le plus rapidement possible.
Puis là, c'est pas la première fois du côté du maire marchand qu'on promet une communication super fluide, puis que finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui se passe. Il y a plusieurs citoyens qui se sentent pas écoutés. Puis à chaque fois que ça se produit, on repromet une bonne communication. À un moment donné, c'est qu'il faut arrêter de promettre. C'est bien beau de dire, mais il faut que les actions suivent à un moment également.
Ah, il faut, et clairement, il faut qu'il y ait un virage net, là, puis que les gens soient capables de le voir, de le constater dans la façon dont Bruno Marchand s'exprime sur la place publique, en jase. Il va falloir qu'il soit capable de se mettre dans les souliers des autres aussi, d'être mieux capable de comprendre comment ses propos peuvent être perçus, peuvent être pris. Je m'imagine que Bruno Marchand, selon lui, dans sa vision des choses, il gère pas mal d'affaires, puis pour lui, un petit commerçant, une petite rue, c'est pas si important que ça dans l'histoire au complet. Mais pour ces gens-là, ce l'est, c'est très important ce qu'ils vivent. Fait que ça, il va falloir qu'ils démontrent beaucoup plus de sensibilité. Puis, comme tu dis, ça commence à être un thème récurrent, cette question-là de la sensibilité de Bruno Marchand aux différentes réalités des gens qui sont sur le terrain. Puis je le répète, il faut que ce soit une priorité, il faut qu'ils réussissent à se décoller cette étiquette-là de la tête.
Oui, parce qu'on se rappelle, je dis, bon, il y a des commerces qui ferment, il y en a d'autres qui ouvrent, mais tu sais, dans les faits, le commerçant qui ferme, c'est parce que c'est sûrement toutes ses économies, son rêve qui viennent de partir en fumée.
C'est des tragédies humaines, là, c'est clair, là. Puis c'est des employés qu'il faut qu'ils se recherchent des nouveaux emplois. C'est très grave, là. Donc, effectivement, tu peux pas prendre ça à la légère, puis juste prendre ça de manière globale en disant bon, il y a des commerces qui ouvrent, qu'il y a des commerces qui ferment, c'est la vie. Y a-t-il quelqu'un qui a fait un but?
Oui, ouais, exactement. C'est maintenant 3-3 entre le Canada et la Tchéquie. Nick Suzuki, le capitaine du Canada qui fait, le capitaine du Canadien qui fait dévier un tir provenant de la pointe, là, si j'ai bien vu. On va regarder la reprise, là, Alicia, là, on s'excuse, on reparle de politique municipale tout de suite après. Et voilà, il a fait dévier un tir de la pointe
à
directement
3,
dans le filet.
3 minutes 27 de la fin de la troisième. Le Canada vient égaliser 3-3. L'espoir olympique est encore en vie.
Il avait raté un filet ouvert en deuxième période. Retour en politique municipale avec Alicia Despins, chroniqueuse politique pour nous à On en jase, qui est avec nous une fois par semaine, les mercredis après le conseil municipal. Alicia, je veux te faire entendre un extrait d'une entrevue qu'on a eue ce matin avec Mélissa Coulombe-Leduc concernant justement les autobus qui se retrouvent exclus du Vieux-Québec, les autobus touristiques, parce qu'il va y avoir des travaux. Mais ce que je veux savoir, c'est que je veux que tu entendes cet extrait-là puis que tu me dises, coudonc, est-ce qu'on est en train, à la Ville de Québec, de préparer le plancher pour que ces autobus-là n'aient plus accès au Vieux-Québec par la suite? Mm-hmm. Je te fais entendre ça dans quelques secondes, le temps que je règle un petit problème technique, et voilà.
Écoutez, là, c'est sûr que pour 2 ans, là, ça va être comme ça.
Ouais.
On va voir comment ça se déroule. L'année prochaine, je peux pas vous dire que ça va être exactement comme cette année. On va voir comment ça va se dérouler cette année. Puis moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en parallèle, actuellement, le RTC mène une réflexion sur sa desserte du Québec. Donc, on sait qu'il y a 4,5 millions de touristes qui viennent à Québec. On sait qu'à un moment ou à un autre de leur séjour, ils viennent dans le Québec. Mais comment on peut leur donner une option de déplacement pour visiter notre centre-ville, mais d'autres quartiers aussi, parce qu'il y a plein d'autres beaux quartiers à visiter à Québec, en faisant pas rentrer jusqu'à 250 autobus touristiques en haute saison, ben c'est sûr qu'on va profiter des deux prochaines années pour probablement essayer, tester certaines choses, puis voir si c'est faisable et réaliste de le maintenir dans le temps.
À l'issue, on s'en va vers là. On s'en va vers retirer les autobus du Vieux-Québec. Puis je pensais à ça, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, ça n'a pas d'allure, la mobilité, les touristes, tout ça. » Mais quand on va dans des grandes villes touristiques, on marche la ville.
Ben oui, puis tu sais, c'est plus beau, c'est plus agréable. Il y a assurément des points positifs à tout ça. Moi, je salue Mélissa Coulombe-Leduc pour sa transparence, finalement. Là,
vraiment?
Parce que c'est ça qu'on assiste, puis on a parlé avec le tramway, on a parlé en termes de communication. Mélissa vient nous démontrer que c'est possible de jouer carte sur table puis de dire, mais regarde, on n'a pas le choix en ce moment, il y a des travaux, on le teste parce que c'est ça la réalité, mais peut-être qu'on va prolonger ça, on va au moins l'étudier, on va réfléchir à ça. Puis je trouve que c'est très intelligent de pousser cette réflexion-là, de se questionner sur la présence d'autobus dans le Vieux-Québec. On sait que c'est demandé par les citoyens depuis longtemps. Ça peut, tu sais, dans les points positifs, on a l'opportunité d'étendre de la présence des autobus touristiques sur d'autres rues commerciales. On sait que les rues dans le Vieux-Québec sont pas très larges, donc d'amener une plus grande quiétude, d'avoir plus de place là, pour les piétons. Moi, je me questionne par contre là, sur la question des camions de livraison qui, pour moi, je trouve ça moins réaliste. Cette idée-là d'amener des zones de livraison sur les rues transversales.
C'est un excellent point.
Le lundi matin, si tu marches sur Saint-Jean, tu vois que c'est pacté de camions de livraison, mais c'est une question d'efficacité d'être capable d'aller livrer directement à la porte des commerçants. Fait que ça, je mets un bémol là-dessus. Mais je pense que le vrai défi, au final, ça va être de faire la démarche avec les citoyens, avec les commerçants, qu'il y ait une acceptabilité sociale là, à la fin de la décision finale, une fois les travaux terminés. Ça a l'air d'être le cas avec les citoyens, mais le secret, comme dans beaucoup de choses, c'est la constance. Là. Une fois les séances d'information terminées, comment on fait pour continuer d'en parler puis de développer ce projet-là avec les citoyens et les commerçants du Vieux-Québec.
Tu as entièrement raison, Alicia Despins. On va suivre ce dossier-là de très près. Autre dossier qu'on parlera, mais pour une prochaine fois, c'est Saint-Antoine de Tilly. On va regarder comment tout ça se développe parce qu'il y a démission du maire là-bas. C'est le troisième maire à démissionner depuis 2022. La foire est pognée avec les citoyens là-bas. On se fera une petite chronique spéciale Saint-Antoine de Tilly parce que je veux qu'on parle de la façon de procéder aussi au niveau du monde municipal, surtout dans les petites municipalité. Je sais que tu es experte là-dedans, donc on se fera une petite chronique là-dessus.
Avec grand plaisir.
Cool! Alicia, merci beaucoup pour ta présence à l'émission d'En Jase.
Merci, bon match!
Salut, merci! Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale pour nous à l'émission d'En Jase. Toujours des excellents commentaires. Elle a connu le beat municipal pendant 8 ans, notamment 4 ans au pouvoir dans l'équipe de Régis Labeaume. Dans un instant, à l'émission On En Jase, on va être avec un ex-conseiller politique de Québec solidaire et maintenant un militant. Antonine, est-ce que tu veux nous présenter notre prochain invité?
Donc, Guillaume Boivin, qui était, que tu le disais, un conseiller politique au sein de Québec solidaire, mais qui a milité longtemps auparavant et il a même milité dans les partis ancêtres de Québec solidaire. Et cette semaine, il a signé une lettre ouverte dans Le Devoir que j'ai trouvée vraiment très intéressante et très d'actualité en invitant ses camarades solidaires à choisir. À choisir entre deux options. Est-ce que QS est prêt à choisir ses combats pour éventuellement pouvoir aspirer au pouvoir ou est-ce qu'on continue de se prononcer sur un peu tout et n'importe quoi des fois même quitte à aller à l'encontre de ce que la majorité de la population réclame. Donc, en fait, la question qu'on pose, c'est est-ce que Québec solidaire pourrait être un petit peu plus pragmatique? Et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'y prête particulièrement avec ce qui se passe dans toute la question du débat sur Alexandre Boulris qui souhaiterait se présenter pour Québec solidaire. Mais les règles de Québec solidaire empêchent M. Boulris de se présenter dans une circonscription qui est réservée à des personnes qui ne sont pas des hommes, finalement, ce qui me semble un petit peu un manque de stratégie et de pragmatisme. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui a connu tout ça aussi de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a invité Guillaume Boivin à être à l'émission avec nous.
On va le rejoindre à l'instant même. Monsieur Boivin, merci pour votre participation à l'émission d'En Jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
Bonjour à vous deux, ça me fait plaisir.
Merci. Guillaume Boivin, ancien conseiller politique pour Québec solidaire, maintenant militant, qu'est-ce que vous pensez justement de cette règle-là de réserver des comtés qui sont là imaginés comme gagnés à des femmes et des personnes non binaires?
Oui, bien écoutez, c'est sûr que ça part d'une bonne intention. Vous savez, à Québec solidaire, c'est un parti qui était basé sur des principes féministes bien affichés. Et la recherche de la parité partout dans les instances de Québec solidaire est quelque chose qui a toujours fait partie de l'ADN. Donc là, ça pose la question de quels sont les moyens à prendre pour y parvenir. Et c'est là où le bas blesse, parce que là, la question, c'est jusqu'où aller sans s'enfarger dans les fleurs du tapis. Et là, on peut se poser la question si la dernière décision qui a été prise au Conseil national de juin 2025, qui stipulait que tous les comtés actuellement occupés par des élus de Québec solidaire et qui seraient devenus vacants seraient réservés aux femmes, n'allait pas un cran trop loin.
Mais ça, cette situation-là est un peu symptomatique des problématiques qui affectent Québec solidaire depuis son existence. C'est qu'on a l'impression que l'objectif, c'est d'avoir raison, d'avoir la bonne ligne, d'avoir les bonnes valeurs, mais que des fois, on peut manquer un petit peu de flair politique et on se tire dans le pied, finalement. Est-ce que ce parti-là, maintenant que vous avez quitté, que vous n'êtes plus employé de Québec solidaire, est-ce que vous y croyez encore que c'est possible que Québec solidaire se transforme pour devenir un véhicule un peu plus efficace qui pourrait aspirer au pouvoir?
Ben, effectivement, la question se pose, et c'est d'ailleurs là, une intervention que j'ai faite par une lettre d'opinion lundi, qui stipulait, ou du cas, qui faisait le constat suivant, c'est que Québec solidaire, s'il veut avoir une cohérence qui lui permet d'atteindre des objectifs qu'il se fixe, quels que soient ces objectifs-là, doit clarifier la question suivante. Et la question que je pose, c'est est-ce que la poursuite du succès électoral et du pouvoir, ça représente oui ou non un objectif stratégique central? Et là, moi, je pose la question parce que, et je souligne que le choix soit oui ou que le choix soit non. Ces deux modes d'action qui pourraient être débattus, dont l'efficacité peut être débattue. Mais une chose est sûre, c'est que rester dans l'indécision avec un côté du parti qui répond implicitement oui et l'autre parti qui répond implicitement non, bien là, ça fait des tiraillements qui tirent dans toutes les directions. Il n'y a pas moyen d'avoir de cohérence organisationnelle et de progresser dans ce contexte-là.
Et on a l'impression, nous, vu de l'extérieur, que Gabriel Nadeau-Dubois a essayé, en quelque sorte, de clarifier ces choses-là. Lui semblait porter votre option A, là, c'est-à-dire que Québec solidaire veut accéder au pouvoir et poser les actions en conséquence puis faire certains compromis sur certains enjeux par moment. Mais si Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réussi, est-ce que vous pensez que les porte-paroles actuelles vont amener ce débat-là et permettre à Québec solidaire de trancher une fois pour toutes là-dessus?
Bien, écoutez, la question se pose pour ce qui est de l'approche de M. Nadeau-Dubois. Tout le monde l'a compris qu'effectivement, là, lorsqu'il y a eu un moment pivot, il a décidé de pivoter vers ça. À un certain moment donné, je ne pouvais pas l'exprimer dans la sphère publique, mais comme il y a eu un René random, je me demandais s'il n'y aurait pas un GND random à ce moment-là. Alors, il a plutôt pris la forme implicite et beaucoup trop implicite, justement, pour être fonctionnel, de la fameuse déclaration de Saguenay qui était présentée là, comme un entérinement implicite de cette approche-là, mais comme je le dis, c'était beaucoup trop implicite.
C'était pas assez clair.
Et comme je le dis, il suffit pas qu'un dirigeant, un porte-parole fasse la proposition, puis qu'on adopte une plateforme sur un moment donné qui se veut plus pragmatique, qui a même pas de valeur programmatique à proprement parler, qui n'est pas la plateforme électorale non plus. Donc, est-ce que c'est suffisamment clair pour pouvoir poser la question et y répondre? Parce que moi, j'appelle à y répondre clairement et que ce soit suivi d'effet ensuite. Ben, ma réponse est non.
Moi, j'ai une question aussi sur certaines prises de position sur certains enjeux qui semblent des fois peut-être un petit peu plus loin de ce qu'un gouvernement du Québec peut s'occuper. Puis la question de la Palestine, semble prendre beaucoup de place des fois chez Québec solidaire. Est-ce que ça, c'est un des enjeux sur lesquels Québec solidaire pourrait slacker un peu la pédale dans l'objectif peut-être de connecter un petit peu plus avec l'électorat québécois?
Oui, ben je pense que la question se pose pour ce qui est d'un parti qui a vocation à être indépendantiste, qui veut figurer dans le concert des nations, ben je pense pas qu'il y ait une incohérence à vouloir adresser la question. C'est une question
qui
est
sensible. C'est juste qu'il l'adresse beaucoup, là.
Oui, mais c'est tout. Voilà, en politique, là, on conviendra, là, vous et moi, que tout est question de proportion et de manière. Donc, je laisse les gens le juger à quel point là, la manière de le faire est rébarbative. C'est sûr aussi que notre porte-parole et chef parlementaire ont une sensibilité bien normale là, par rapport à ça. Mais je vous dirais que parmi ce que je dirais, j'aime pas ce mot-là en public en politique, mais parmi le public, disons, là, susceptible d'être intéressé par Québec solidaire, je pense pas que ce soit parmi les éléments les plus rébarbatifs. Je crois qu'il y en a, il y en aurait possiblement d'autres, ou du moins, celui qu'on attire par le point A, ben, va être rebuté par le point B, puis celui qu'on attire par le point B va être rebuté par la position maximaliste, disons, sur le point C. Donc, c'est un peu ça, là, la problématique, la quadrature du cercle là, chez Québec solidaire.
Monsieur Boivin, avant de terminer l'entrevue avec vous, je veux juste mentionner à nos auditeurs que Mitch Marner vient de marquer en période de prolongation. Le Canada l'emporte 4-3 et passe à la ronde demi-finale. Le but le plus important de la carrière de Mitch Marner. Je termine l'entrevue avec vous en vous demandant, est-ce que Québec solidaire est complètement sorti de son socle? On avait avec notamment la grève à la STM où on a privilégié défendre le syndicat plutôt que les gens, justement, qui sont défavorisés, qui ont besoin de transport en commun. Il me semble que c'est la clientèle de Québec solidaire, là, ces gens-là qui ont besoin de l'appareil gouvernemental pour les aider. Et là, on est allé défendre des syndicats. J'ai vraiment pas compris cette prise de position-là.
Bien, écoutez, je suis pas là aujourd'hui là, pour faire un spin de Québec solidaire, mais je vous dirais que l'explication qui avait été donnée à l'époque, c'est-à-dire que on va pas se faire, à Québec solidaire, faire la leçon alors qu'on défend les investissements significatif et important le développement du transport en commun, ce qui permettrait à ce moment-là d'offrir les conditions de travail, la poursuite des conditions de travail très bonnes, on doit le reconnaître dans le milieu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un meilleur balancement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu considérer, comme certaines personnes que je nommerai pas, donc comme j'ai proposé, peut-être qu'on aurait pu faire une exception et placer directement dans la loi sur les services essentiels cette exception-là pour les transports en commun, qui franchement, là, la question se pose. Mais une chose est sûre, c'est que de la même manière que la question de la Palestine, ce qui est le public de Québec solidaire, comprenait qu'il y avait, à mon sens, un dilemme un peu insoluble entre défendre...
Ben, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est pas très insoluble. On défend les gens qui sont dans le besoin, puis on laisse faire les gueugards syndicales, là.
Ben écoutez, vous voyez, alors disons que les valeurs et les principes que vous mettez en jeu pour arriver à la conclusion que les choses sont très très claires à votre avis, ben c'est peut-être pas chez le public solidaire quelque chose d'aussi évident. Mm-hmm. Je vous dis, écoutez,
Aussi que Québec solidaire est à 6% d'un sondage.
Ben absolument, parce qu'on se cachera pas, ce qui est porté par Québec solidaire à l'heure actuelle, c'est pas vraiment ce qui est en adéquation avec le sentiment général de la population, et c'est d'ailleurs le but du papier que j'ai produit, c'est que on peut, sur un certain nombre d'enjeux, essayer de faire progresser la population dans le sens de ce qu'on souhaite. Mais si on fait tous les fronts en même temps et qu'on sait pertinemment qu'on est non pas 100 mètres, mais 100 kilomètres en avant de l'état d'où est la population, on n'a pas la puissance, on n'a pas la capacité de convaincre les gens simultanément sur tous ces fronts-là. Donc, moi, ce que j'appelle à faire, c'est de déterminer quelques priorités. Est-ce que on peut faire l'économie de l'écologie aujourd'hui comme front central, de rassembler autour de ça et d'arrêter de rebuter les gens en ayant des positions maximalistes sur d'autres enjeux qui sont importants, mais qu'on doit moduler d'une manière intelligente.
Oui, arrêter des fois de s'éparpiller. C'est pas toujours facile en politique. On a le goût de réagir aussi à toute l'actualité. Vraiment, avant de vous laisser, parce qu'on vous avait dit dernière question, mais j'en ai une petite dernière. Comment ça a réagi, votre lettre ouverte, dans les rangs solidaires? Parce que j'imagine que votre écosystème a dû lire votre lettre. Est-ce que ça réagit bien? C'est bien accueilli?
Oui, en fait, j'ai été surpris de voir qu'il y a quand même eu une réception assez intéressante. Je sais pas si je peux faire la promotion d'autres médias ici, mais un petit média de gauche, Presse-toi à gauche, ou les militants historiques, si on veut, de la gauche québécoise, oui, ont répondu à ma lettre. Moi, j'ai fait une réplique et je reçois toutes sortes de messages des gens qui ne peuvent pas s'exprimer officiellement, vous le comprendrez, qui sont en parfait accord avec ça.
Mais vous êtes pas fait lapider, là, ça va bien.
Je me suis pas fait lapider, puis de toute manière, que vous savez ce que c'est, Antonine, c'est que lorsqu'on est dans la situation où on est comme du personnel politique, on a un devoir de réserve important. Et là, moi, ça fait 7 ans que je ne peux pas m'exprimer. Et là, j'avais envie de le faire. Et mon but n'est pas de faire l'unanimité, mais bien de faire ce que je pense être des contributions utiles pour amener le véhicule politique que je privilégie et surtout le Québec dans le bon sens.
Monsieur Boivin, Guillaume Boivin, militant pour Québec solidaire, ex-conseiller politique, merci infiniment pour le temps que vous avez pris avec nous. C'était très, très, très intéressant l'entrevue.
Merci de m'avoir invité. N'hésitez pas.
Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Guillaume Boivin qui a signé une lettre justement pour aller à l'encontre de ce que Québec solidaire privilégie, c'est-à-dire des candidates féminines ou non binaires. Hein, candidate féminine non binaire. J'ai hésité avant de le dire en français.
Je t'ai fait signe parce que M. Boivin ne s'est pas nécessairement positionné contre ça.
Ah, ouais, en effet.
Son message, c'est que, dans le fond, son parti, son ancien parti, doit choisir ses combats. Mm-hmm,
en effet. Qui est plus ça, en effet. Je me suis mal exprimé, je m'en excuse, Antonine. Bon, je suis de retour en ville. Le Canada l'a emporté 4-3. Mitch Marner
on a pas
isolé. Anto, je m'excuse vraiment. J'ai manqué de concentration dans la dernière heure et 14 minutes que le Canada vient de marquer
le
4 minutes.
J'ai tenu le fort, parce que là, les gens à la maison, ceux qui ne voient pas là, sur Twitch, ne voient pas tout ce qui se passe ici, là, mais ça s'énervait. Là. J'avais deux garçons très, très énervés à côté de moi.
C'était épouvantable. J'ai jamais été distrait comme ça en faisant de la radio comme aujourd'hui. De grâce, il faut que la semi-finale soit à 15h10, sinon je vais prendre congé vendredi.
Ah non, mais...
Ça n'a pas de bon sens. Là, mais... on s'excuse aussi auprès des auditeurs. Tout est débalancé. Il va y avoir des pubs, un Lambert Drainville qui s'en vient. J'ai perdu le contrôle. Je l'assume à 100%. Si Steve Lavoie dit « Je suis prêt à reconnaître mes erreurs », mes patrons qui m'écoutent, je reconnais mes erreurs. Ça a été un show où j'ai été distrait sans bon sens.
Jeff, c'est pas grave. L'important, c'est que le Canada ait gagné, que le rêve olympique est encore en vie pour notre équipe canadienne.
Et voilà, victoire de 4-3, but de Mitch Marner. Lambert Drainville suit dans quelques instants l'émission L'Enjase. Hey, Boulevard 101, l'émission d'Enjase, 13h28. Je vous rappelle que le Canada l'a emporté 4-3. Mitch Marner a marqué en prolongation. Prenez cette bonne nouvelle en note parce que, Mathias, on a une mauvaise nouvelle pour nos camps de jour.
Oui, on stressait parce qu'on savait qu'il allait y avoir des coupures dans les camps de jour. C'était sorti, on stressait parce que, selon les informations, c'était évalué une possibilité comme quoi on allait réduire les places en camps de jour. Puis on sait que c'est déjà rare. On vient d'annoncer du côté de la Ville de Québec aujourd'hui que ce n'est pas des places qu'on va réduire en camps de jour pour faire face aux coupures qu'on met en place, mais plutôt on va augmenter les tarifs. Donc à partir de cette année, ce sera 82 $ par semaine pour justement inscrire votre enfant au camp de jour au lieu de 68 $ l'an dernier. Donc une augmentation de 14 $ par semaine.
On déneige vos pistes cyclables à coût de 14 $ de plus au camp de jour pour les familles qui ont de la misère à payer ça. Wouhou! C'est une bonne nouvelle, mais oubliez pas, le Canada a gagné 4-3. Bon, OK, on s'en va rejoindre Lambert Drainville directement de Montréal qui a adoré ce but de Mitch Marner. J'en suis convaincu. Lambert qui est avec nous à chaque mercredi aux alentours normalement de 13h10 et les vendredis avec Farnell Morisset à midi. Lambert, es-tu comme moi, là? Es-tu fou?
Jeff, je me suis remis du déo, c'est pas des farces. C'est
ah,
pas
yes! Des farces.
Ça teste, tu sais, quand tu as les pubs de déo puis ça dit que ça va être, tu vas être à sec pendant 48 heures. C'est factuellement pas vrai, en tout cas, pour ce qui est du mien. Parce que tabarouette que j'ai eu des sueurs froides.
Ceux qui voient sur Twitch, j'ai les manches de chemise remontées. D'habitude, j'ai un chandail par-dessus ma chemise. Je suis certain que j'ai le dos mouillé à l'heure actuelle.
Ah, écoute, c'était... La check-in, ils ont fait des belles, hein, surtout au championnat junior.
Ben, c'est
là.
Ça! Je voyais tellement ce scénario-là encore revenir, là, de la checkie qui nous surprend. Ouf!
Et qui d'autre, Jeff, que Nick Suzuki, capitaine du Canadien?
Ah oui!
Que tout le monde a critiqué, que tout le monde disait il devrait être mis sur le banc pour le match éliminatoire.
Ouais.
Et finalement, qui va marquer le but égalisateur pour envoyer le match en prolongation. Écoute, mon gars, c'est un merveilleux tournoi qui se poursuit. Puis vraiment, là, les Olympiques, à chaque fois, ça nous fait vivre vraiment des belles émotions. Puis on dirait avec l'ajout de toute l'espèce d'atmosphère là, avec ce qui se passe avec les États-Unis, puis tout ça, on dirait que ça en rajoute une couche là, de notre fierté nationale là, quand on regarde nos athlètes pratiquer leur sport là, à Milan. Vraiment. Là, c'est vraiment fantastique.
Lambert, tu as du fierté nationale et la face d'Antonine s'est transformée en baboune nationale.
Ouais, j'avais oublié que ma chère amie était autour de la table.
Ouais, hein, non, c'est ça. Je me suis sentie oubliée pendant un instant. Ta fierté nationale canadienne, là.
Oui, c'est ça. Je suis pas surpris que tu aies fait cette face-là. Tu le sais où est-ce que je me range aussi à ce niveau-là.
Mais t'es comme Jeff. Bon. C'est que quand il arrive des affaires de même, tout à coup, là, le Québec
on
prend le bord.
On a notre drapeau du Canada ben oui. Sur le dos.
C'est pas que le Québec prend le bord, mais c'est juste que tabarouette, on n'en a pas d'équipe québécoise pour l'instant. Fait que là, on se rabat sur l'autre équipe. Puis mine de rien, mais le capitaine du Canadien, qui est notre équipe ici au Québec, est celui qui a égalisé la partie. Fait que on a de quoi être fiers. On a de quoi être fiers à tenir le drapeau du Canada.
On est fiers de notre Canada. OK, Lambert, une place où on était moins fiers, par exemple, c'est avec le dossier Satlick, rapport déposé par le commissaire Galland. T'en penses quoi? Les oppositions ont dit « Hey, on n'a pas été assez féroce dans le rapport envers les ministres en place. On a planté la sac. » Toi, tu te situes où là-dedans?
Mais Jeff, je te propose ce matin qu'on fasse ce que les partis politiques à l'Assemblée nationale semblent visiblement incapables de faire, c'est-à-dire se mettre en mode solution.
Ah, j'aime
ça! Parce que moi, je regarde ça d'un point de vue d'un citoyen québécois là, qui a vu l'État et la SAC dilapider des centaines de millions de dollars dans ce projet-là. Et là, le rapport sort, le rapport est volumineux, c'est un travail extrêmement rigoureux. Le rapport est assez clair aussi, là. Et là, tu les entends d'un côté, le gouvernement dire « Bon, ben on nous a menti, on nous a sciemment menti au point de vouloir possiblement poursuivre là, les hauts dirigeants de la SAC. Puis c'est vrai, là, c'est vrai qu'ils se sont fait mentir. C'est mentionné que ce soit Geneviève Guilbeault qui avait reçu des chiffres de 458 millions alors que le contrat était de 682. Elle avait en sa possession des fichiers puis des PowerPoint qui contenaient l'information, mais à chaque fois, c'était présenté dans une manière pour dire tout est beau, tout est correct. Même chose pour le bureau du premier ministre. Puis de l'autre côté, ben, tu as les oppositions qui, justement, eux autres vont dire « ça n'a pas de bon sens, comment que le gouvernement a été irresponsable ». Met la faute sur le ministre Bonnardel, Guilbeault, ministre des Finances, la secrétaire générale Dominique Savoie. Et c'est vrai, encore une fois, que ces gens-là aussi avaient une certaine forme d'information. Mais à chaque fois qu'on le mentionne, le commissaire Galland revient et dit que... comment il dit ça? La commission note néanmoins que la SAAQ continue de présenter des dépassements de coûts comme étant des élargissements de portée. Bref, tout le monde a raison. T'sais, le gouvernement, essentiellement, n'était pas le premier responsable. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité? Certainement. Mais le juge a mis la part de responsabilité du gouvernement au chapitre 12 du volet 2 du rapport sur 12. Fait que s'ils étaient les grands responsables, le gouvernement, il serait bien avant ça
mais
dans
là,
le rapport.
Mais là, on fait quoi? Là? On fait quoi avec ça pour pas que Santé numérique nous coûte 14 milliards?
Mais c'est ça l'autre affaire. Là. C'est que là, tes voix, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Ça me rappelle quand on était jeune, puis tu sais, t'as signé avec ton frère, puis ta mère, elle disait « Je m'en sac de savoir c'est qui le responsable. Je veux juste plus que ça se reproduise. » C'est un peu la même chose dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Les Québécois regardent ça, puis disent « Hey, c'est notre argent. C'est un demi-milliard qui a été tiré par les fenêtres. » Puis là, t'as d'autres projets numériques. Tu vois ce qui se passe au fédéral, là, avec le système des retraites. T'as vu ce qui s'est passé avec l'application ArriveCan. T'as le DSN qui est déployé. T'as un paquet de projets numériques qui sont déjà déployés présentement, qui sont déjà présentement en dépassement de coûts. On le souhaite qu'il soit le moins possible. Alors, pour éviter que ça continue, cette espèce de folie-là, de jeter de l'argent par les fenêtres aux mains des grandes compagnies informatiques, est-ce qu'on peut, justement, se mettre en mode solution? Et ce que le rapport met de l'avant par rapport à où est-ce qu'on devrait mettre l'emphase d'abord et avant tout, c'est au niveau de l'expertise. Puis on s'en est déjà parlé, Jeff. Il faut être en mesure de ramener de l'expertise informatique au sein de l'État et de la garder. Parce que présentement, la chose, le constat principal pour moi de ce rapport-là, c'est que le niveau de dépendance du gouvernement par rapport aux fournisseurs externes et le manque d'expertise à l'interne du gouvernement pour challenger les choix technologiques. Et c'est ça les deux plus gros enjeux.
Ouais,
alors, il faut trouver un moyen de... Vas-y.
Challenger, c'est bien, mais aussi être capable de bien définir son besoin avant même de faire appel aux entreprises externes. T'sais, on est tellement pas bon qu'on n'est même pas capable de savoir ce dont on a besoin. Fait que c'est vraiment un enjeu. J'écoutais le point de presse de France-Hélène Duranceau hier. Puis je trouvais que du côté du gouvernement, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on insistait beaucoup sur les gestes répréhensibles de la SAC. Là. On va poursuivre les pas fins, là, puis les pommes pourries là, qui ont... Tu sais, j'ai l'impression que ça peut être l'arbre qui cache la forêt, dans le sens que si on se concentre juste là-dessus, on risque de passer à côté aussi, parce que, tu le disais, c'est le manque d'expertise, c'est les processus, on n'a pas été capable de bien surveiller les contrats informatiques puis les projets. Tu sais, si le gouvernement se concentre seulement sur l'aspect malversation, on va passer à côté, là, parce que c'est pas juste ça. Là. Les autres fiascos que tu as nommés tantôt, Carl Balanfin n'était pas là, là.
Exact. Puis c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour le gouvernement du Canada, puis c'est vrai pour, bien honnêtement, pratiquement tous les gouvernements en Occident, à tout le moins, qui ont de la difficulté avec ce genre de contrat-là, parce que l'enjeu est le même. Tu as juste une poignée de compagnies très, très spécialisées qui sont en mesure de mettre en place des projets et des programmes de cette envergure-là. Et c'est la recommandation principale du commissaire de mettre en place une entité centralisée qui doit se doter d'une expertise à ce niveau-là. C'est la première recommandation. Personnellement, moi, je ne suis pas un grand fan d'encore une fois rajouter des structures, surtout sachant que dans les dernières années, bon, il y a eu le ministère de la cybersécurité qui a été mis en place avec le dirigeant principal de l'information et c'est vis-à-vis dans chaque ministère. Donc, il y a déjà les entités qui sont en place pour ça. Je pense que rapidement, l'objectif, ça devrait être de les regrouper. Et qu'est-ce que tu veux? Au final aussi, une des raisons pour lesquelles l'expertise est constamment dans les entreprises privées et non pas du côté du public, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est qu'au privé, ils ont des salaires plus élevés, ils ont des primes, ils ont des stock options, ils ont une flexibilité qui est pratiquement totale. Alors, on n'aura pas le choix éventuellement de se dire, bien, si on veut avoir de l'expertise, il faut être capable de compétitionner avec les conditions qui sont offertes à ces talents-là, ces cerveaux-là qui sont des machines d'informatique. Mais il va falloir leur offrir des meilleures conditions. Plus de flexibilité, moins de lourdeur administrative et surtout des salaires plus élevés. Et
ben ça, justement, en terminale, en bas, t'en penses quoi de mon idée de dire hey, moi, là, je prends les 2-3 meilleurs au Québec, je les paye 5-6 millions par année, puis ils nous gèrent ça. Puis de cette façon-là, je vais économiser parce que de toute façon, on a un dépassement toujours de centaines et de centaines de millions de dollars.
Ouais, je pense que ça va prendre plus que ça, que 2-3 personnes pour régler nos problèmes, mais chose certaine, je le vois un petit peu de la même façon que toi, Jeff. Il nous faut, pour reprendre l'expression de M. Dubé désormais fameuse, il nous faut des top guns. Il nous faut des top guns informatiques à l'intérieur de la machine qui vont être là et qui vont rester là, qui vont être là lors de l'implantation des programmes, qui vont suivre leur développement puis qui vont avoir l'expertise en question pour négocier ces contrats-là si on veut mettre à jour ces systèmes-là un jour. Et pour ça, ben, ça prend de la volonté politique, puis ça prend, qu'est-ce que tu veux, des ministres et des gouvernements qui sont prêts à « put your money where your mouth is » et de dire si « on veut avoir de l'expertise, ben c'est plate, mais il va falloir payer pour l'avoir. » Puis en 2026, alors que l'intelligence artificielle est partout autour de nous, l'informatique est absolument partout, et beaucoup de nos enjeux en termes de productivité vont dépendre de technologies plus efficaces, eh bien, je pense qu'on est rendu à l'époque de dire, ben, on doit payer plus cher ces gens-là. Ils sont devenus des morceaux trop critiques de ce qu'est l'État québécois et ce qu'on veut faire de l'État québécois pour la suite. Et moi, je pense qu'on doit regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Il y a des pays, des petits pays. Je regardais, avant d'entrer en onde, l'Estonie, par exemple, qui est un modèle mondial en matière d'architecture informatique. Un petit pays. C'est qu'on peut regarder ce qui se fait ailleurs, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais encore une fois, pour ça, il faut de la volonté politique. Et je terminerai en disant, bien, de la même façon que j'ai commencé, je pense que les Québécois qui ont vu tout le déroulement de la Commission Galant, les témoignages, les ministres, le PM, machin, en ont un petit peu soupé là, de savoir l'argent qui est parti, on ne la retrouvera pas.
Non, c'est ça.
On ne peut pas en perdre plus. Et mettons-nous tous, parce que tous ces parlementaires-là sont élus par le peuple pour représenter le peuple dans la maison du peuple, bien, faites donc en sorte que ça arrête de nous coûter des centaines de millions au peuple. Arrêtez de vous pointer du doigt et à demander « c'est la faute à qui? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 ans? » C'est arrivé, c'est ça. On peut-tu regarder en avant, établir les solutions, puis rapidement, pour éviter que les contrats qui sont présentement en train de se faire, les programmes qui sont présentement en train d'être mis en place et d'être réformés, ben, qu'on arrête de jeter de l'argent par les fenêtres.
Je suis entièrement d'accord, Lambert Drainville. On se reparle vendredi avec Fernel Morisset?
Absolument.
Va fêter la...
Je te... Comment? Vas-y.
Pas fêter la victoire du Canada.
Ouais, qu'est-ce que t'allais
dire? C'est pas gagné, hein? Ben, j'allais dire, j'allais saluer, ma chère Antonine.
Salutations!
Yes!
C'est un plaisir d'être ensemble autour du micro en personne, éventuellement.
Exactement, Anto qui a une idée folle et extraordinaire pour notre soirée électorale.
Ah oui!
Ça a été accepté par les grands patrons.
On va faire un party,
on
vous
va faire
voir.
Un vrai beau party, on vous en reparle. Après, dans un instant, après cette courte pause, on s'en va rejoindre le collègue Alex Laramin pour parler de cette victoire du Canada en hockey à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. C'est toute une émission spéciale, les amis, à On en jase, 13h46. Pourquoi? Parce qu'Antonine Iaccarini fait l'émission avec nous au complet, Mathias. C'est-tu pas le fun?
Tu veux-tu que je te dise le pire? Puis elle vienne de me le confier hors d'onde. Elle est restée tout le long juste pour pouvoir parler de la victoire du Canada.
Exact.
4-3 contre la Tchéquie.
Exactement.
Uniquement pour ça.
Et pour parler de cet excellent match, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose sinon aux Olympiques pour le Canada aujourd'hui, pas de médaille. On a Alex Laramin, excellent chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Alex, comment vas-tu?
J'ai encore chaud, mais ça va, vous
autres? Hey, Alex, ça n'a pas de sens comment je ne pensais pas vivre ces émotions-là, puis on était juste en quart de finale.
Ah ouais, non, c'est pour ces moments-là qu'on se rend compte que ça n'a aucun maudit bon sens qu'on ait passé autant d'années sans voir les joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques. Match rocambolesque, dire, égalité 2-2 pendant presque tout le match. Finalement, la Tchéquie prend l'avance en fin de troisième période. Et là, on commençait à stresser. Là, moi, ici, là, j'étais désemparé. Tout le monde au bureau regardait ça. Et finalement, Nick Suzuki, qui d'autre? Hein? Nick Suzuki. Qu'on pensait qu'elle allait être laissée de côté pour le match d'aujourd'hui, qui finalement fait la formation, marque le but égalisateur. Finalement, on s'en va à 3 contre 3, puis Mitch Marner délivre tout le Canada. Là, honnêtement, c'était rocambolesque, c'était une montagne russe d'émotions. Là. On ne peut pas utiliser assez d'hyperbole pour décrire toutes les émotions qu'on a vécues.
Puis c'était inattendu en quart de finale contre la Tchéquie. Quelle performance de la Tchéquie, je tiens à le souligner. Puis pour ceux qui écoutaient le match, là, quand c'était 3-3 en fin de troisième période, à 1 minute 10, il y a eu une échappée de la Tchéquie. J'ai fait un arrêt cardiaque durant un moment, mais quel arrêt de Jordan Binnington à ce moment-là, à ce moment précis. Puis encore une fois, il est venu prouver pourquoi c'est lui qui est devant le filet. Le gros arrêt, il l'a fait au moment important.
Ouais, exactement. John Cooper l'avait dit après le premier match, c'est son homme de confiance. Il y en a peut-être certains à certains moments dans le match qui ont douté, mais tu l'as dit, au gros moment... Il a réussi à s'élever à la hauteur du moment puis faire l'arrêt qu'on avait besoin. Puis finalement, après, c'est Mitch Marner qui a été capable de marquer le but gagnant. Non, honnêtement, je suis encore sur le coup des émotions. Là. C'est complètement débile, ce match-là, toutes les émotions qu'on a vécues.
Surprise présentement parce qu'après 2 périodes, c'est 2-0 pour la Suisse. Donc la Suisse pourrait être l'adversaire du Canada en demi-finale. La Slovaquie a battu ce matin l'Allemagne. Et là, gros match à 15h10, les Américains contre les Suédois. Tu prédis quoi, Alex Laramin?
Ah, selon moi, les Américains vont l'emporter là, face à la Suède. Moi, on en a déjà parlé, Jeff. Moi, j'ai jamais été convaincu de l'équipe de la Suède. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent du hockey mou. Je pense que les Américains ont le couteau entre les dents. Et si je suis l'entraîneur américain, je leur montre là, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canada en leur disant « Hey, on peut pas prendre personne à la légère. Faut jouer les matchs, surtout dans des matchs, une fois qu'on est dans la ronde des médailles, que c'est à élimination directe. »
En effet.
Ça va tout être un affrontement, mais selon moi, les Américains vont s'élever.
4-2 États-Unis pour moi. Mathias, rapidement, ton pointage?
5-2 États-Unis.
Excellent. On va aller vers l'experte en hockey, Antonine Iaccarini, les Américains ou les Suédois?
Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Puis là, vraiment, tantôt, vous étiez complètement déconcentré, mais là, c'est moi, vous m'avez perdu. Là, je suis resté à la dernière station.
Excellent. Donc, Antonine a pris la Suède d'une surprise 4-3 en prolongation. Alex Laramin, on se parle demain. On va se parler notamment de la finale entre les États-Unis et le Canada en hockey féminin qui va avoir lieu à 15h10.
Ah oui, sans faute.
Cool. Salut Alex, merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Alex Laramin, que vous pouvez entendre au 99.5 Montréal, justement, dans des bulletins de nouvelles. Il est excellent. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on revient avec la fin de l'émission. Émission d'Angers qu'on a adoré faire avec vous pendant que le Canada l'emportait 4-3 sur la Tchéquie. Prochain match du Canada vendredi, ça devrait être contre la Suisse. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis, Audrey et Véro. Si vous voulez réécouter une très bonne entrevue également ce matin, dans Marceau le matin, c'est disponible sur le blvd.fm. On a reçu Bernard Drainville qui a tenté de nous vanter son corridor central pour le troisième lien. Vous pouvez aller réécouter le tout. Ça n'a pas passé auprès de nos auditeurs.
Ben, il a pas convaincu grand monde, je pense, malheureusement.
Non, pas du tout. Antonin Iaccarini, merci d'être resté avec nous toute l'émission. Écoute, et d'avoir fait cette personne sage de
malheur. C'est ça. Mais est-ce que c'est moi qui ai foutu le bordel? Est-ce que je vous porte malheur pour que vous...
Non, t'es un porte-bonheur, Canada a gagné.
Ah, voilà. Ah, fait qu'il faudrait que je sois là les prochains matchs. Parfait.
En plein ça, Mathias Turcotte, merci beaucoup d'être avec moi. On se reparle demain midi pour l'émission On en jase. On vous laisse avec Gravel dans le retour. Bon après-midi, guys.
Yes, bonne journée.
Bye.